Alors ce soir, pour ce deuxième numéro spécial des Voix d'Altaride en compagnie de Thomas Munier, on va parler du jeu social. Et avec nous, on a donc Thomas. Bonjour Thomas.
Salut.
Et on a Sandra.
Bonjour.
Notre experte S-Convention et public varié rôliste.
Experte. Bonjour la pression.
Alors, dans ces podcasts hors série, on revient sur les différents atomes du jeu de rôle que Thomas Munier nous a présenté lorsqu'il a parlé d'immersion avec nous dans un podcast précédent, qu'il a aussi présenté sur le podcast Ludologie, qui était très très intéressant. Et on a déjà enregistré un numéro sur le jeu esthétique avec Eugénie, et on est donc ici sur le jeu social. Alors Thomas, le jeu de rôle social, qu'est-ce que c'est? Ah oui, petit, j'ai oublié de refaire le petit point de départ. Quand on parle de jeu social, ici, on ne parle pas de jeu exclusivement social. Simplement, dans ce podcast, on va s'intéresser à cet atome de jeu social en particulier. Qu'est-ce que c'est que cet atome de jeu social?
Tu vas présenter les gens avant
Eh bien, je l'ai fait.
Ah ok, bon, excuse-moi.
Oui, je l'ai fait, j'ai présenté Sandra, je ne t'ai pas présenté toi, puisque je suis parti du principe que nos éditeurs te connaissaient. Alors, qui es-tu, Thomas? Qui es-tu, Thomas Munier?
Eh bien, je suis un auteur de jeux de rôle, j'ai écrit des jeux de rôle dans l'univers forestier de Millevaux, et puis j'écris aussi des jeux de rôle dans des univers contemporains oniriques, comme Dragonfly Motel, par exemple. Voilà, qui vient de sortir. Et puis j'ai aussi un petit blog qui s'appelle Outsider, vous allez retrouver tout ça dessus. Et je fais aussi pas mal d'articles qui portent sur la créativité. Dans tous les domaines, hein, du coup, pas uniquement jeux de rôle.
Et je crois d'ailleurs que tu en as publié un aujourd'hui même sur la créativité. Il me semble avoir vu passer quelque chose.
Ouais, voilà, à peu près un par semaine quoi, en général.
Ok, et on retrouve ça sur
outsider.rollpod.net.
Parfait, bien. Alors, revenons à nos moutons et à notre jeu de rôle social. Qu'est-ce donc que ce jeu de rôle social?
Donc, comme on disait, il y a plusieurs formes primaires dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle social, c'en est une. Elle est rarement présente uniquement à 100%. Hein. C'est une partie de... Ça forme une partie d'une séance de jeu de rôle, quoi. Le jeu de rôle social, c'est pratiquer le jeu de rôle comme prétexte ou moyen pour se réunir soit entre personnes de même affinité, soit pour faire des rencontres, ou alors pour créer ou étoffer du lien social, ou encore pour passer un bon moment entre amis. Et donc ça va cohabiter avec les autres atomes du jeu de rôle qui sont tactiques, morales ou esthétiques.
Ok. Donc oui, c'est ça, on entend énormément de rôlistes d'ailleurs présenter le jeu de rôle uniquement comme prétexte pour se retrouver avec leurs amis.
Voilà, donc du coup, c'est ce que j'appelle jeu de rôle social quoi. Enfin une partie d'eux quoi, parce qu'il y a plusieurs aspects. Hein.
Ouais, en revanche, je trouve, enfin c'est un point que tu voulais aborder, c'est assez peu exploré par la théorie rôliste cet aspect social du jeu de rôle.
Alors oui, par exemple si tu prends la théorie GNS qui en fait va donc de Ron Edwards et puis enfin il y en a plein d'autres hein, qui il est pas le seul à avoir pondu cette théorie là qui découpe le jeu de rôle en trois sortes en fait qui est le ludisme en fait grosso modo c'est le jeu de rôle tactique, le narrativisme jeu de rôle moral et le simulationniste pour faire simple un jeu de rôle esthétique. Et curieusement, effectivement, le jeu de rôle social est absent, et je pense ça vient du fait que Ron Edwards est sociologue, et du coup, à mon avis, pour lui, le jeu de rôle est une activité intrinsèquement, complètement sociale, et du coup, en fait, il a déjà dépassé ce fait, et puis il commence à étudier en fait le reste du jeu de rôle, parce que pour lui, c'est acquis que le jeu de rôle c'est une dynamique sociale, et après, il essaie juste de voir comment on peut teinter cette dynamique. J'ai retrouvé l'autre jour, j'ai pas des typologies des joueurs et des MJ d'Olivier Caïra dans les Forges de la fiction.
Oui.
Alors, tac. Et en fait, donc il donne une typologie, enfin il appelle pas ça typologie d'ailleurs, il appelle ça les exigences ludiques, c'est-à-dire pourquoi on vient à la table. Et en fait, le social est absent. Encore une fois, Olivier Carrère, c'est un sociologue, donc ça explique peut-être qu'il écarte finalement le côté social du champ de sa recherche. Il y a aussi dans les forges de la fiction, il y a aussi, il fait volontairement l'impasse sur une étude sociologique, un profil sociologique des rôlistes. À la fois parce que ça l'intéresse pas dans le sujet de son étude et aussi parce qu'il estime que on manque de données. Alors bon, c'était à l'époque des forges de la fiction, c'est il y a à peu près il y a 10 ans. On a peut-être un peu plus de données, un peu plus de sondages. Vous aviez le fameux, notamment, vous en avez fait un avec les voix d'Altaride. Hein,
oui, tout à fait.
Et puis un peu compléter le corpus qui existait déjà. Donc on commence peut-être un peu mieux à connaître les profils sociologiques des rôlistes. Bon, avec tous les biais que représentent ces sondages, évidemment. Alors, les typologies de, les exigences ludiques d'Olivier Carrera, c'était la simulation, grosso modo, bah, c'était esthétique, hein. L'interprétation, on a aussi le côté esthétique, mais plutôt au niveau du roleplay. La progression, c'est-à-dire progresser en expérience, ça, je vais plutôt rapprocher ça du tactique. Raisonnement, bon, voilà, en pure tactique. Le panache, bah, côté esthétique. On avait l'érudition, donc je ramène ça aussi encore esthétique. L'atmosphère, atmosphère, ça peut aller à la fois dans l'esthétique et le moral. Il y avait l'étrange, encore esthétique, et l'expérimentation, à mon avis, qui va du côté du moral ou de l'esthétique, où on essaye des trucs. Mais il n'y avait pas le social. Alors, il y a quand même, je pense, une étude qui peut être intéressante. Alors, malheureusement, j'ai fait l'économie de la lire avant de venir vous voir. J'avais lu, il y avait une interview sur le Grog, qui résume un peu le contenu de l'étude. C'est un devoir de maîtrise qui s'appelle « Les jeux de rôle laboratoire de coordination sociale ». Pour le coup, je pense que là, c'est vraiment le sujet d'étude, finalement. C'est comment, socialement, les rôlistes s'organisent. Et je pense qu'en fait, il y a un corpus de textes sur le jeu de rôle social, mais il va être cantonné au conseil de maîtrise, bien souvent. Soit au conseil de maîtrise, soit carrément à des études de sociaux, mais qui filtrent pas beaucoup jusqu'à nous, quoi. Alors, ouais. Dans les conseils de maîtrise, on citera notamment le premier article du recueil Mener des parties de jeux de rôle, qui s'appelle La préparation. C'est un article de Fabien de Neuville. Et justement, il insiste pas mal sur comment on organise une partie, comment on va mettre en place un rythme de séance, ainsi de suite, comment intégrer des joueurs en cours de route. Et puis aussi une recette de houmous. Donc, il incite pas mal aussi sur le côté convivial, si on veut, de l'activité rôliste.
Oui, la question que ça évoque pour moi, est-ce que les groupes de joueurs qui se réunissent pour du jeu de rôle ont quelque chose en particulier par rapport à un groupe d'amis qui se réunit pour une soirée, par exemple ? Ou est-ce que le côté social du jeu de rôle, c'est simplement le fait de retrouver ses amis et finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à en dire.
Déjà, il y a le côté sériel du jeu en campagne. Qui va créer une grosse différence sociale par rapport à juste on se réunit pour se faire des party games ou pour boire des bières entre copains.
Ouais.
Donc il y a un engagement, un investissement qui est demandé, qui va aussi du coup permettre de tisser des liens forts, quoi.
Donc c'est une activité sociale, mais une activité sociale qui apporte des plaisirs particuliers et des aspects sociaux qui sont peut-être pas uniques, mais en tout cas suffisamment originaux pour que les gens continuent à se réunir régulièrement pour faire du jeu de rôle, alors que, comme tu le disais, ça demande beaucoup d'investissement, quoi.
Ouais, et puis il y a une chose importante, Vincent Baker, quand il définit le jeu de rôle, il dit que le jeu de rôle, c'est une conversation. Bon, pour aller plus loin, c'est une conversation qui est intéressante, en fait. Ça fournit matière à une conversation qui peut être passionnante. Et moi, je sais que, pour prendre mon exemple personnel, ça a été un remède à la solitude, le jeu de rôle. Parce que je peux être assez introverti ou avoir des centres d'intérêt assez limités, mais je sais que du moment qu'on est à une partie de jeu de rôle... Là, j'ai un sujet de conversation, j'ai quelque chose à partager, à échanger, et je vois pas le temps passer, quoi. Et je pense que je suis pas le seul, mais en tout cas, la plupart de mes amis sont en fait des copains de jeu de rôle, quoi. Parce que quelque part, on a eu ce prétexte de conversation stimulante pour se retrouver, puis ça a fini par créer du lien qui fait qu'après, on est devenu amis en dehors des parties de jeu de rôle, quoi.
Ok.
Mais avant d'aller plus loin, Sandra ou toi Julien, est-ce que vous avez des exemples de biblio, enfin d'études sur le jeu de rôle social que j'aurais manqué?
Sandra?
Très bonne question. J'en avais lu une en anglais que j'avais trouvée sur Reddit, mais je ne la retrouve pas. Je vais essayer de retrouver le post et je passerai le lien à Julien et toi-même pour que vous puissiez le publier. Mais
Entendu.
cela parlait en fait de l'évolution du jeu de rôle et de comment le jeu de rôle a permis de créer des liens entre personnes de diverses origines et de divers milieux sociaux.
Mais je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de discussions de comptoir sur le forum Casus Snow, par exemple. On pourrait sortir tout un tas de topics qui parlent de ça, en fait. Notamment les fameux marronniers. Là, il y a un marronnier encore sur Casus Snow en ce moment pour savoir si le jeu de rôle c'est toujours un loisir de niche, mal vu. Grosso modo, comment le rôliste est inclus socialement, entre guillemets. Mais voilà, c'est les études plus entre guillemets complexes sont un petit peu limitées. Enfin, il y en a peu, en tout cas à ma connaissance.
Écoute, c'est vrai que la façon dont le jeu de rôle est reçu, ça a été le sujet un petit peu de la conférence, enfin la table ronde qu'on a organisée à Paris et Ludique, qui est sur le site des Voix d'Altaride. Donc si ça vous intéresse, il y a des éléments à ce niveau-là. Ce que je me demande, c'est est-ce que quand on parle de jeu de rôle social, on s'intéresse aux dynamiques sociales dans une table de jeu de rôle, entre les joueurs de jeu de rôle?
Oui.
Ok, ça va nous permettre
C'est-à-dire que, en
de mieux
fait,
définir.
on va beaucoup parler ce soir des joueurs, beaucoup moins des personnages.
D'accord, ok.
Des joueurs, des joueuses. Hein. Alors justement, le point suivant, c'était ce que j'appelle comment là, on va retrouver le côté presque un peu militant. Du jeu de rôle social, c'est jeu de rôle social et inclusion. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que j'appelle l'inclusion? Ma vision de l'inclusion, le concept de l'inclusion, c'est de dire que on a des activités données et on veut les ouvrir à un maximum de personnes, c'est-à-dire pas uniquement à des personnes qui seraient privilégiées parce qu'elles sont valides, parce qu'elles appartiennent à telle classe sociale ou telle ethnie, hein. On veut que tout le monde soit ouvert à l'activité. Par exemple, si je prends l'inclusion dans le tennis, c'est-à-dire bah, on va permettre à des personnes qui seraient handicapées, qui seraient porteuses d'un handicap physique ou mental, eh ben, de jouer au tennis. Alors, quitte à aménager l'activité, par exemple. Par exemple, en supprimant l'idée que de compétition, c'est juste, on veut juste que les personnes jouent au tennis, mais on va pas forcément les pousser, on va pas forcément compter les points, ou alors si on compte les points, peut-être qu'on va faire des matchs seulement entre personnes qui ont le même handicap. C'est-à-dire que évidemment, si on fait s'affronter une personne valide et une personne en fauteuil roulant au tennis, ça risque de pas intéresser longtemps la personne en fauteuil roulant, quoi. Et l'autre facette de l'inclusion, c'est aussi de se dire, ah bah oui, mais c'est bien de permettre à tout type de personne d'accéder à l'activité, mais c'est encore mieux si on peut le faire en mixité. Donc bah par exemple dans le milieu scolaire, c'est l'idée que on va sortir les personnes porteuses d'un handicap, on va les sortir des institutions pour les amener dans les écoles les écoles valides, quoi.
Oui,
Quitte
bon.
à là l'aménagement, du coup, c'est plutôt une personne accompagnante, quoi.
Oui, ou créer des structures mixtes. Moi, par exemple, j'ai eu des élèves qui ne venaient qu'à certains cours parce que le reste du temps, ils étaient en centre fermé pour diverses raisons. Là, c'était des raisons
Oui,
psy,
voilà, donc
machin.
ça c'est
Bon,
un
peu
entre-deux,
importe, mais
effectivement.
oui, il y a plein de solutions, ouais, effectivement. Et l'inclusion, c'est quelque chose dont on a déjà un peu parlé quand on a fait nos podcasts sur le jeu de rôle et les femmes, dont on reparlera
Oui,
très
parce
très
que du coup,
certainement d'ailleurs.
tu vas avoir cette thématique d'inclusion, effectivement, avec le sujet les jeux de rôle et les femmes, on est dans une thématique d'inclusion, quoi.
Mais alors, évidemment, on va pas en reparler. On peut peut-être citer des podcasts ou des sources où on a déjà parlé de ce genre de choses, et ensuite aborder des points concrets puisqu'on a la chance d'avoir Sandra avec nous, qui a une sacrée expérience dans ce domaine-là, en fait.
Donc, ce que je voulais dire là-dessus, pour conclure, c'est que grosso modo, on était sur l'idée qu'il y a des personnes qui vont avoir une pratique militante du jeu de rôle pour aller à la rencontre du nouveau public, pour leur offrir l'activité jeu de rôle, en fait. Donc, c'est soit à travers le jeu en convention. Donc là je vais citer le podcast que vous avez fait sur les conventions. Je laisserai Sandra si elle a besoin de développer, je la laisserai développer. Et l'autre aspect, c'est ce que j'appelle l'animation. C'est-à-dire que la personne, elle vient pas uniquement pour faire pour partager, offrir l'activité, la faire découvrir. Elle vient aussi avec un objectif qui peut être divers, quoi. C'est-à-dire qu'elle vient pas uniquement pour jouer, mais elle a un objectif, par exemple, pédagogique, un objectif d'éducation, tout en jouant, quoi. Donc, il y a un des podcasts Outsider qui porte sur le jeu de rôle et l'animation, qui est quand même déjà assez complet, et dans les liens du podcast, il y a notamment un lien vers un dossier jeu de rôle à l'animation, où là il y a des interviews d'animateurs, que ce soit dans le milieu scolaire, dans les centres aérés, et aussi du point de vue des auteurs, ainsi de suite. Et dans le dossier, il y a aussi plein de liens vers des expériences qui ont été faites, notamment du jeu de rôle avec des non-voyants. Mais ça, Sandra, tu pourras nous en parler. Du jeu de rôle en prison, du jeu de rôle avec des enfants atteints d'un syndrome de Down, hein, c'est-à-dire des enfants atteints de trisomie, ou encore du jeu de rôle avec des personnes qui ont une maladie de Parkinson. On pourrait multiplier les exemples, hein, c'est pour vous donner une idée, quoi.
Tout à fait. On peut citer aussi l'association Opal qui avait à une époque un programme pour faire du jeu de rôle en hôpital, Sandra.
Oui, Opal à l'hôpital. Afin de, il n'y a malheureusement pas pu avoir les contrats avec les différents hôpitaux, mais plusieurs personnes, dont moi-même, s'étaient portées volontaires, afin de, surtout pour les hôpitaux, pour les enfants malades ou pour les personnes en longue hospitalisation, pour apporter une animation et permettre aux gens de se changer l'idée en participant à une activité ludique.
Voilà, okay, donc là, à nouveau, on va à la fois retrouver des notions d'inclusion, quoi. Et aussi cette idée que faire partager l'activité en un sens c'est thérapeutique, même si au même titre peut-être que l'art thérapie, que les clowns médecins, qu'en fait c'est des personnes qui peuvent pas sortir et donc on leur apporte l'activité et ça, entre guillemets, c'est l'idée de leur faire du bien, d'apporter un bien-être, quoi.
Le jeu de rôle a pour avantage de plus de permettre d'inclure des personnes qui n'ont peu ou pas de mobilité physique. Ça ne nécessite pas de devoir courir, ça ne nécessite pas de déplacer des pions sur un plateau, ça nécessite juste de pouvoir communiquer. Et la communication n'est pas toujours verbale. Donc on peut inclure un panel de personnes non négligeables dans la pratique du jeu de rôle. Cela nécessite une adaptation de la part du maître du jeu ou des autres joueurs autour de la table qui n'ont pas forcément tous les mêmes handicaps, mais tout le monde peut être inclus. Le jeu de rôle a pour avantage de ne pouvoir exclure quasiment personne.
Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes expériences dans ce domaine-là, brièvement, Sandra, nous les rappeler, puisque les auditeurs du podcast en ont déjà entendu parler?
Alors, je fais beaucoup de jeux de rôle avec des enfants, des animations en école avec les enfants. Ce que l'on remarque essentiellement, c'est que les forces autour, je pose une énigme et ils sont forcés de réfléchir ensemble et ils apprennent à utiliser les compétences les uns des autres. Ils disent « Ah, lui c'est un guerrier, il peut taper, donc il peut taper sur le monstre pendant que moi je vais pouvoir le soigner ». Ils y arrivent assez vite à être dans une dynamique de groupe, d'entraide et de discussion. Et tous les il y a des petits timides de temps à autre et on les voit souvent lever la main pour proposer une idée qui, même à 4, 5, 6 ans, est une idée construite. Ils ont réfléchi, ils ont écouté ce que disaient les autres et il y a des enfants qui sont capables de proposer un condensé d'idées.
Mmh. Ouais, donc tu veux dire que... parce que quand tu parles de résolution d'énigmes, j'ai l'impression, et Thomas pourra me contredire si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que la résolution d'énigmes, c'est plutôt le côté tactique du jeu de rôle.
Non, pas forcément. Ça peut être simplement une véritable résolution d'énigmes. Ce que je veux dire, c'est simplement leurs personnages en jeu sont confrontés. Ça peut être une énigme, un combat. Cela peut être
oui,
un
bien côté, sûr.
Cela peut être une énigme, comment ouvrir une porte. Cela peut être une énigme simplement de quelle est la démarche à suivre ou comment obtenir une information. C'est cela ce que j'appelle une énigme.
Oui, bien sûr. C'est la résolution d'un problème. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas. Enfin, vas-y, Thomas, pardon.
Bah, l'idée, là où Sandra reste dans le sujet, hein, dans ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, ce qu'elle apporte aux enfants, c'est ce qu'on appelle des compétences transversales.
Absolument, oui.
Donc, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, tu fais une partie de jeu de rôle, t'as pas d'objectif particulier, mais tu sais que tu vas leur apprendre quelque chose parce que tu vas les amener à manipuler des situations, quoi.
En fait, ce n'est pas si j'ai un objectif, c'est qu'ils s'amusent. Souvent, chez les jeunes, l'objectif, quand je l'ai fait en école avec la maîtresse, l'objectif, c'est qu'ils font des calculs mentaux sans s'en rendre compte forcément. Ou alors, ils apprennent vraiment la communication, à s'exprimer, à poser... c'est vraiment de la résolution de problèmes utiles à la vie de tous les jours.
Ou gérer leurs émotions, d'ailleurs, parce que...
Gérer leurs émotions, comprendre...
Je sais pas, moi, chaque fois que j'ai joué avec des enfants, j'ai toujours le cas typique des enfants qui veulent tuer tout le monde.
Mais alors ça, c'est un classique. Ça, c'est un très très grand classique, mais il existe des jeux qui permettent justement de jouer avec des enfants sans que ceux-ci ne soient impactés par la violence. Parce que justement, la mécanique du jeu fait qu'ils doivent passer par des systèmes coopératifs, de discussion, et cela fonctionne énormément et très très bien avec les jeunes enfants, j'ai pu le constater. Quand ils sont ados, par contre, il y a un moment où il faut que ça tape.
Tu fais jouer à Sombre les enfants, je crois, Sandra.
Oui, j'ai un scénario de Sombre pour enfants à partir de 3 ans, qui en fait basé sur non pas sur du Sombre classique, mais sur du Sombre zéro, qui est un système de jeu vraiment très très simple. Et l'enfant est un doudou qui est oublié dans une valise au bord d'une route, et il y a les éboueurs qui arrivent.
Moi, je trouve ça horrible.
Et ben, ça fonctionne très très bien avec les enfants. Parce qu'ils comprennent très vite qu'ils doivent s'entraider pour fuir les éboueurs. Et surtout, cela leur permet de prendre la parole. Certains sont contents d'expliquer qu'ils savent utiliser une valise, comment ouvrir une porte. Moi, je sais que le chien ici peut faire peur aux éboueurs parce que souvent ça aboie. Ils sont contents de nous montrer des cas pratiques qu'ils connaissent. Et ils apprennent aussi à laisser parler les autres. À laisser les autres s'exprimer, parce qu'ils comprennent assez vite que tout seul, ils ne vont pas réussir. Et ils ont plus envie de réussir que d'être le héros.
Bah écoute, c'est vachement intéressant ça.
Je crois que tu voulais nous parler aussi de jeux de rôle et handicap, même si on a un peu parlé, mais peut-être, je pense que tu as envie de développer.
Oui, tout à fait. Sur les handicaps, je fais jouer des personnes non-voyantes et des personnes non-entendantes. Et souvent, les personnes handicapées, il y a une sorte d'isolement, puisqu'il y a une communication qui est orale, qui ne peut se faire avec des non-entendants, et la perte de la vue ou la non-possession de la vue impacte énormément sur la vie de tous les jours de même. Donc, le fait de pouvoir faire du jeu de rôle avec des personnes handicapées permet de faire du « bah non, il n'y a pas de différence ». À ma table de non-voyants, j'ai un joueur qui est tout à fait voyant. Mais cela n'empêche pas que tout le monde est autour de la table pour raconter l'histoire, faire avancer le scénario. Et
qu'on en revient à la mixité, quoi.
On en revient à la mixité. Et surtout, ce qui fait plaisir en tant que maître du jeu, c'est d'entendre un de ses joueurs dire « Maintenant, j'ai moins peur de cela parce que je sais que je peux le faire comme les normaux. » Et là, ça fait « Bon, bah, je ne sais pas ce que j'ai réussi, mais au moins, c'est ma petite fierté. » Il ne faut pas avoir peur de proposer du jeu de rôle à des publics autres que le public capable de s'exprimer, de voir, de parler. Tout le monde, pour moi, peut faire du jeu de rôle. C'est vraiment On réinvente des moyens de communication, on réinvente des techniques de jeu, un positionnement dans l'espace également par rapport au public. On trouve d'autres moyens de communication, mais l'histoire se fait, le scénario se fait, et on est là, on voit un monde être créé devant nous, et on voit les gens s'ouvrir et prendre confiance en eux. Se dire que non, mais moi j'ai pas de soucis, j'arrive très bien à le faire, j'ai fait ma résolution d'énigme, j'ai réussi ma mission. Voilà, le handicap s'efface au profit de l'animation, du jeu et du plaisir de jouer ensemble.
Ça me met une autre idée, une autre barrière qu'on peut avoir, c'est le préjugé qui nous arrive d'avoir, de se dire que le jeu de rôle, c'est une activité d'étudiant ou de cadre. Que c'est grosso modo la majorité sociologique qui serait intéressée par le jeu de rôle. Alors que en fait, il y a tout un tas de contre-exemples. Le jeu de rôle, c'est un jeu sans classe. Déjà, du simple fait qu'il est, il est quand même très peu coûteux en matériel. Ça implique qu'on peut jouer avec quasiment n'importe qui. Hein. Il y avait Romaric Briand qui avait cité l'anecdote où il jouait avec des clochards, notamment.
Bah écoute, moi ça m'est jamais arrivé de jouer avec des clochards, mais c'est vrai que quand j'étais ado et que je faisais beaucoup de jeux de rôle, notamment au club, le public du club était hyper varié, quoi. Ça allait des lycéens, à des étudiants, à des gens qui travaillaient déjà, à des gens qui avaient arrêté leurs études depuis longtemps, qui étaient notamment, je me souviens, d'un ouvrier du bâtiment. C'était effectivement assez mixte. Maintenant, il faut quand même pas se leurrer.
Il y a un coup d'entrée.
Voilà, il y a un coup d'entrée.
Ouais. Les clochards, ils faisaient pas la différence entre la réalité et la fiction, que c'était un problème, parce qu'il y a un moment, le MJ fait dire par un PNJ, il agresse le perso d'un des clochards, et là, le clochard s'est mis à vouloir agresser physiquement Romaric, parce qu'il pensait, il n'avait pas compris que c'était du roleplay, quoi. Et je me rappelle une fois, j'ai joué avec une personne qui est originaire du Maroc.
Oui.
Et la première demi-heure de jeu, c'était très compliqué, dans le sens où j'étais dans l'impossibilité de lui expliquer ce que c'était d'incarner un personnage. C'était vraiment le concept là de c'est un jeu, on incarne un personnage. Elle me demandait en fait, la personne me demandait toujours ce qu'elle devait faire, alors qu'en fait, l'idée d'incarner un personnage, c'est que justement, tu demandes pas au MJ ce que tu dois faire, c'est à toi d'imaginer, quoi. Mais en fait, c'est des barrières qui peuvent céder facilement, quoi. Et des fois, effectivement, il suffit de une demi-heure ou une heure d'explications pour faire venir la personne ensuite au loisir et qu'elle s'en sorte comme n'importe qui.
Finalement, pas plus que beaucoup d'autres loisirs.
Le coup d'entrée du jeu de rôle, c'est une sorte de culture générale, un intéressement, une ouverture et un état d'esprit assez ouvert d'esprit. Pour moi, c'est ça le coup d'entrée. Je n'ai pas réussi à faire jouer certaines personnes parce qu'elles avaient l'esprit... elle ne comprenait pas le principe du jeu de rôle et de jouer ensemble. Et par contre, j'ai vu une grand-mère à une convention qui me disait « Oh là, moi je suis vieille. La question, ça a été « Madame, aimez-vous lire ?» Elle a adoré faire la partie avec un MJ. Elle avait plus de 80 ans, cette dame. Je pense qu'il faut vraiment une ouverture d'esprit et aimer lire aide énormément pour le jeu de rôle, pour se projeter dans les personnages, l'imagination.
Aussi du coup une ouverture d'esprit de la part de la personne qui va proposer l'activité, se dire
oui.
pas se dire ah bah non cette dame là elle a on en voit en convention, c'est en convention notamment quand tu joues en table ouverte, tu vois les gens qui vont autour de la table et puis qui regardent un instant, quoi. Et l'idée c'est le premier réflexe des fois que j'ai en table ouverte, c'est de dire je pars du principe que je propose dès que quelqu'un regarde, je lui propose d'intégrer la table. Mais c'est vrai que j'ai toujours un premier réflexe, c'est entre guillemets une sorte de tri à l'entrée. Je dis ok, là, c'est un mec entre 20 et 40 ans, je vais lui proposer. Et il faut que je fasse un petit effort pour me dire, bah non, en fait, faut proposer à n'importe qui, si c'est un enfant, si c'est une fille, si c'est une personne âgée, du moment qu'elle elle a écouté ce qui s'est passé, là qu'il y a déjà un premier intérêt, tu peux lui proposer, puis de toute façon, t'en risques rien d'autre que d'essuyer un refus, quoi.
Tout à fait. C'est se dire que c'est vraiment accessible à tout le monde et qu'à partir du moment où la personne fait la démarche d'être curieuse et de s'intéresser, sans lui sauter pour autant à la carotide tel un vendeur de tapis, lui dire si cela vous intéresse, venez participer, venez rêver.
Alors, est-ce qu'on peut sortir de ces thématiques d'inclusion, de mixité, pour aller vers la suite du programme ?
Absolument.
Sandra, je ne t'ai pas coupé l'herbe sur pied, c'était des choses qui étaient importantes pour toi à développer ?
Non, non, tout à fait, okay. Moi j'ai terminé.
Super, si ça te revient, de toute façon, n'hésite pas. Le point suivant, c'était les contrats sociaux, tout bêtement. Je pense pas que l'idée ce soit d'énumérer tout ce qui se fait en contrat social, surtout que vous avez fait un podcast sur le sujet, si ma mémoire est bonne.
Oui, tout à fait, on avait fait tout un podcast sur le contrat social.
On en a fait un aussi.
Ouais.
Donc, faut aller voir de ce côté-là. Mais l'idée, c'était de remettre en le fait que c'est comme c'est une activité petit 1 qui peut être complexe, mine de rien. Même si effectivement, une fois qu'on est dans le bain, ça a l'air simple. À part Shadowrun.
Oui, ça dépend de... parce que dans les coups d'entrée, on n'a pas cité la difficulté de certaines règles aussi, c'est vrai.
Voilà. C'est une activité qui demande de l'investissement, notamment quand on joue en campagne. C'est une activité qui peut être exigeante aussi au niveau émotionnel. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a les contrats sociaux, donc à la fois pour organiser la logistique de la partie, mais aussi pour organiser comment on gère les thèmes chocs, notamment. Et donc on voit donc il y a les contrats sociaux en avance, il y a toutes les tout le discours pendant la partie où en fait on est tout le temps en train de se réassurer, dire bah tiens prends la parole ou alors est-ce que ça va, c'est pas trop trash pour le moment, ainsi de suite.
Ouais, t'as une...
est-ce qu'on fait une pause, ainsi. Donc il y a vraiment la partie elle-même est tissée de commentaires sociaux, quoi.
Oui, tu as une remédiation permanente du contrat social en fait autour d'une table de jeu.
Tout à fait. Et puis il y a le fameux débriefing aussi qui est important. Tout ce qui est anecdote plus tard, quoi. Souvent, notamment quand on est sur une campagne, c'est un petit peu le contrat social permanent, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de parler à partie, quoi. Dès qu'on se retrouve entre copains, on en parle. Contrat social. Donc la cellule, les voix d'Altaril. On vous remettra les liens.
Oui, on remettra les liens. On en a déjà amplement parlé et on le réévoque régulièrement. On a fait un numéro sur est-ce qu'on peut tout jouer. On en a parlé des émotions. C'est un thème qui est vraiment récurrent. Effectivement, ouais. Je pense pas qu'il y ait besoin de revenir dessus dans ce podcast.
Alors, la suite, la question que je me posais, c'est que bon, là jusqu'à présent, on a parlé du social dans les jeux de rôle. Je voudrais parler de est-ce qu'on aurait une typologie de joueuse qui serait la joueuse sociale ? Alors, encore une fois, typologie, c'est un gros mot. Je suppose qu'une joueuse n'est jamais 100% un profil, quoi. Mais on va essayer de dresser un portrait imaginaire, quoi, de ce que serait la joueuse sociale et qu'est-ce qu'elle a investi, elle, dans l'activité jeu de rôle. Et moi, ma première définition, alors, c'est vraiment ouvert la discussion. C'est que la joueuse sociale, il y avait Olivier Rouillet qui me disait, le bon joueur, c'est celui qui joue le jeu, quel que soit le jeu. Et quelque part, la joueuse sociale, c'est celle qui est prête à jouer, quel que soit le jeu de rôle, en fait. Tu lui proposes un Bloodlust, tu lui proposes les cordes sensibles, ou tu vas lui proposer un fiasco, elle s'en fout, elle sera d'accord du moment que c'est du jeu de rôle. Et de surcroît, en fait, elle aurait cette capacité à comprendre l'intention du jeu. Par exemple, on joue à Toon, c'est un jeu humoristique, donc la joueuse elle va faire des blagues, elle va participer à l'ambiance du jeu, quoi. Ou alors, elle va comprendre l'intention de la table, quoi. C'est-à-dire, si on prend l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu, tu peux jouer Pulp, tu peux jouer Enquête, tu peux jouer Épouvante, et elle va réussir à comprendre c'est quoi que la table veut, en fait, pour la partie, et elle va se couler dans cette intention.
Est-ce
dans
que
l'idée que
ouais.
C'est une facilitatrice, en fait, c'est une personne qui va mettre un petit peu d'huile dans les rouages, quoi.
J'allais dire, est-ce que ça se rapproche de l'harmonie dont tu parlais dans le podcast précédent? Et ce serait quelqu'un qui arrive à percevoir cette harmonie et à entrer en harmonie facilement avec les autres? Ou est-ce que c'est autre chose que tu décris?
Ça peut en procéder, parce que quand je dis harmonie, c'est vraiment sur le côté créatif.
D'accord.
Tandis que je pense que ça dépasse ça, en fait. Comment c'est plutôt une notion d'empathie, en fait.
Quelqu'un qui
une
va
personne
savoir.
Qui a une bonne empathie qui semble avec la table. Et du coup, qui permet d'entrer en résonance avec.
D'accord. Quelqu'un qui va lire la table en quelque sorte et qui va permettre de. Ouais, comme tu disais, de mettre de l'huile dans les rouages. C'est une image qui me paraît très, très parlante de ce point de vue-là.
Sandra, est-ce que ça t'évoque quelque chose, cette typologie, hein?
Bah, c'est simplement ce que je dirais, c'est un joueur moteur plus que mettre de l'huile dans les rouages. C'est le joueur qui est plutôt qui est le rouage au milieu, qui, comment dire, je vois une analogie informatique, mais c'est un peu le routeur. C'est beaucoup de choses vont
il
passer
fait que ça
par
circule
lui,
quoi, il permet que ça circule,
voilà, beaucoup de choses vont passer par lui et il va redistribuer. C'est le cas typique du joueur, de la joueuse routeur.
Je suis pas sûr que ce soit le seul cas, en fait. Des joueurs ou des joueuses plus discrètes, mais dont tu sens l'absence quand ils ne sont pas là parce que les gens travaillent moins bien les uns avec les autres, ça me paraît aussi assez typique. Des gens qui n'interviennent, enfin je sais pas, hein, mais en tout cas c'est l'image que j'en ai, des gens qui n'interviennent peut-être pas énormément autour d'une table de jeu, mais qui, je sais pas...
Pour des interventions à propos.
Ouais, ou tout simplement qui vont faire en sorte que machin n'attire pas toute la couverture à lui, que Bidule l'aime bien, donc il va pas aller plomber le groupe, etc., etc., quoi. Des créateurs de liens, en fait.
Mmh.
Voilà.
Et je pense à un troisième type de jeu social.
Ouais.
C'est un peu ce que Croc appelait avec beaucoup de tendresse la centaurette.
Ouais, tout à fait.
Dire la joueuse qui compose là, qui sent bon, mais qui n'intervient pour ainsi dire jamais, quoi, ou qui fait uniquement ce qu'on lui dit. C'est pas une personne qui va se donner pour vocation d'être moteur pour la table. C'est une personne qui est là parce que justement faire partie de la séance l'épanouit. Et c'est une personne qui est contente d'être là, même si elle-même elle va pas forcément être moteur, mais pour le coup elle vient vraiment à la partie jeu de rôle pour le côté social, pour être avec des gens, pour participer à l'aventure, même si effectivement du coup ça elle est entre guillemets, comme elle est comblée par ce côté-là. Ça va pas forcément autant l'intéresser de faire plein de choses avec son personnage. C'est pas le but. Son personnage, c'est surtout un prétexte pour être présente.
Ouais, d'accord. Sans parler c'est Vivien Féasson qui, dans Libreté, a un archétype qui s'appelle la maman. Ça m'est arrivé souvent de faire un peu ce rôle-là autour des tables de jeux de rôle, mais il y a aussi des joueurs qui sont... Bon, qui peuvent être intéressés par la partie, mais qui se donnent pour rôle surtout de l'organiser, de faire venir les gens, de proposer un cadre agréable, et dont le rôle social est finalement en dehors de la partie de jeu de rôle, mais en dehors de l'aspect histoire de la partie de jeu de rôle.
Celui qui va lancer des doodles plus vite que son ombre pour organiser les dates.
Les gens sont là, ils s'arrangent pour qu'il y ait à manger, pour qu'il y ait à boire, que les gens puissent être bien assis.
C'est vrai que t'as toujours la joueuse qui amène toute la bouffe, quoi.
N'est-ce pas, Sandra? Ouais, bon, ceux qui ont joué avec Sandra comprendront.
Ou la joueuse qui va gérer la musique juste pour décharger le MJ.
Tout à fait, ouais.
Faire, entre guillemets, ça part du boulot, quoi. Où elle va faire les comptes rendus de partie. Voilà, pour dire, moi je fais ma part, entre guillemets. Voilà, quoi.
Eh ben écoute, chaque partie de nos campagnes de jeux de rôle commence par « Bon alors Sandra, il s'est passé quoi la dernière fois ?»
Bon écoute Sandra, je pense qu'on t'a bien cerné. Hein.
Non mais en gros j'ai l'impression de correspondre au gabarit de la joueuse sociale.
Mais pas seulement, mais c'est au moins un aspect de ta personnalité de joueuse, c'est évident. Ouais. Alors, donc...
J'avais un exemple, je pense que c'est notamment... c'est pas le joueur routeur, c'est le on va dire la joueuse qui épouse la entre guillemets l'intention du jeu ou de la table. Et l'exemple que j'avais, alors je sais que Sandra t'es pas ultra d'accord, donc c'est cool pour en discuter. C'est on joue à l'appel de Cthulhu, on fait une maison, on explore une maison hantée, et clairement tout est inquiétant dans la maison hantée. Si on était vraiment roleplay, les personnages fuiraient la maison. Et en fait, la joueuse décide que son personnage descend dans la cave parce que, entre guillemets, c'est ce que demande le jeu. Et le scénario va tomber à l'eau si personne se dévoue pour descendre dans la cave. Parce que, effectivement, la joueuse sait pertinemment que son personnage risque de se faire déchirer s'il descend dans la cave, mais ça fait partie du jeu, quoi.
Ça, oui, et ça, là, j'ai le micro. Oui, j'ai le micro. Ça, je suis sur cela, je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est aussi une action-réaction du personnage suite à un stimuli. Parce que lorsqu'on joue des personnages, bon, tu as pris l'exemple de l'appel de Cthulhu. Lorsqu'on joue un personnage de l'appel de Cthulhu, les personnages ont une sorte de curiosité malsaine pour la plupart. Une espèce de curiosité morbide. Ils savent que ça peut être dangereux pour eux, mais ils vont quand même le faire. Et beaucoup de joueurs incarnent cette curiosité morbide du « je ne veux pas ouvrir cette porte, je ne veux pas ouvrir cette porte, pourquoi ma main se rapproche de la poignée ? Pourquoi ma main se rapproche de la poignée ?» Après, effectivement, il y a des scénarios des mises en situation où la ficelle est très grosse et personne ne veut se dévouer et c'est un ou une joueuse autour de la table qui se dévoue.
Je me dévoue
pour descendre dans la cave. Voilà, pour descendre dans la cave.
Parce que moi j'ai eu des situations à gérer dans l'appel de Cthulhu, justement j'ai dû gérer des personnages qui fuyaient la maison en fait. Et je pense que s'il y avait eu des joueuses sociales, effectivement dans ces situations-là, il y en aurait une qui serait dévouée pour continuer l'investigation au risque et péril de son personnage.
Mais est-ce que et après on peut aussi parler là c'est dans un point de vue roleplay, fuir un danger, pour moi c'est aussi une bonne réaction sur l'appel de Cthulhu. Ça veut dire ton personnage a peur, tu réussis à incarner la peur du personnage s'il n'est pas en metagaming évidemment.
Bah, du coup ça va dépendre de ton interprétation en tant que joueuse, tu dis bah qu'est-ce qui sert le mieux le jeu, est-ce que si je fuis mais que je joue bien la peur, bah effectivement c'est encore je suis encore dans l'idée quoi. Donc du coup c'est vraiment quand t'es une joueuse sociale, du coup ton roleplay va vraiment être inféodé à l'analyse que tu fais du style de jeu qui t'est demandé quoi.
Oui, et de ce que l'on veut aussi voir autour de la table. Est-ce voilà. L'attente de la table, pas que l'attente du style de jeu, mais l'attente de la table sur est-ce que le MJ, on sait qu'il a un plan B si jamais on ne va pas dans la cave, ou est-ce que le MJ suit un scénario totalement scripté de A à Z qui est un scénario assez tunnel, ou il va devoir peut-être improviser totalement et on sait qu'il n'est pas forcément à l'aise avec une improvisation.
Et du coup, tu vas avoir les gros panneaux indicateurs, mais tu vas les suivre parce que tu sais que voilà, le MJ il a prévu son tunnel, l'improvisation c'est pas dans son zone de confort.
Exactement.
Toi, tu vas épouser en fait entre guillemets, tu vas faire pour rester dans la zone de confort du MJ.
Oui, et pour garantir une bonne ambiance autour de la table pour que tout le monde puisse s'amuser, le MJ inclus, puisque souvent quand on parle de s'amuser autour d'une table, tout le monde pense aux joueurs, mais si le MJ est en train de maîtriser, c'est que cela lui plaît, il doit également y trouver son plaisir.
Absolument. Finalement, la joueuse sociale que vous décrivez, c'est quelqu'un qui va se dévouer et éventuellement trouver son plaisir dans le fait que les autres s'amusent. Et s'amuser à partir de ce moment-là plutôt qu'avoir un plaisir égoïste au départ, quoi.
D'ailleurs, à l'inverse, c'est aussi si la joueuse, pardon, si elle est avec des joueurs et un MJ qui sont dans du scénario bac à sable, dans l'impro et tout, et ben du coup, elle va prendre plein d'initiatives avec son personnage pour épouser aussi ce style de jeu-là, quoi. Donc du coup, ça marche dans tous les sens, quoi, entre guillemets, la flexibilité du roleplay, quoi.
Ouais, mais alors elle va créer, non pas parce que ça lui plaît de créer, mais parce que c'est ce qu'on attend d'elle à ce moment-là, en fait. C'est
ouais,
ça que c'est
ça,
tu veux dire.
Ouais,
d'accord.
Tout à fait, ouais.
Ouais, ouais, effectivement, moi, j'en ai rencontré beaucoup et Sandra correspond très très bien à ce modèle-là, effectivement.
Et du coup, on en revient à l'importance du contrat social, c'est-à-dire qu'une joueuse sociale, si le contrat social n'est pas posé au départ, eh ben, elle va être perdue. Si le MJ a pris la peine de dire, bah, je sais pas, on joue dans la cité sans nom, tout est possible, il y a plein de factions, il y a plein de lieux étranges et tout, moi, je vais suivre vos personnages, où est-ce qu'ils aillent, bon, bah, là, il y a le contrat social, bah, attention, on joue en bac à sable, du coup, la joueuse sociale, elle va pouvoir jouer en fonction. Tandis que si il n'y a pas eu cette précaution prise par le MJ, il va falloir que ce soit en cours de jeu qu'elle comprenne l'intention du jeu, ça va être plus difficile pour elle, quoi.
Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la joueuse sociale est une joueuse qui doit se doubler d'un diplôme en psychologie pour comprendre la communication non verbale et le ressenti autour d'une table.
Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais. Je parlais d'empathie, mais ouais, ouais, effectivement, c'est ça. Et du coup, c'est une personne qui va utiliser son intelligence justement elle va s'investir dans la réussite de la partie. C'est-à-dire qu'elle va pas se contenter d'épouser le style de la partie, mais elle va essayer d'identifier les objectifs et elle va employer son talent à les atteindre. Donc, par exemple, si le but du jeu, c'est de nettoyer un donjon dans son intégralité, eh bien, la joueuse sociale va utiliser son intelligence pour aider le groupe à le faire, quoi. Donc, elle se rend compte que le but du jeu, c'est que les personnages aient des dilemmes moraux et tout, eh bien, elle, par son personnage, elle va en amener, quoi. Donc... Et aussi, c'est pareil, si elle ressent que... c'est aussi une personne qui va pousser à la gestion du rythme, par exemple, pour que personne ne s'ennuie, ou pour que la séance arrive jusqu'au climax de fin que tout le monde attend. Donc du coup, ouais. Elle va utiliser son savoir rôliste, ses gestes rôlistes, pour assurer la réussite de la partie, quoi.
Je me demande si on n'est pas en train de décrire, en parlant de joueuse sociale aussi, un des grands, grands archétypes hyper présents de maître du jeu et de ce qu'on a considéré très longtemps comme étant un bon maître du jeu. C'est-à-dire quelqu'un qui serait porté sur l'idée que sa responsabilité, c'est de s'occuper de ses joueurs, quoi. Alors ça a plein de défauts, on a déjà parlé.
Alors,
et tout,
si on veut donner un MJ social, peut-être qu'en plus de ça, le MJ social, il essaierait de comprendre les attentes de ses joueurs et de leur donner ce qu'ils attendent, quoi.
Ouais.
Alors, moi, ça me fait penser un peu au bonus pater familias, quand même.
Bah oui, carrément, c'est pour ça que je parlais du côté négatif.
Ouais. Le côté social, le joueur social, c'est se comporter en bon père de famille. Mm-hmm. C'est se soucier des intérêts qui lui confiés comme s'il s'agissait des siens. Faire donc,
complètement.
Ne fais pas à toi-même ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, je n'aime pas couper la parole aux autres, je n'aime pas qu'on me fasse ça.
Et avec tous les défauts de condescendance qui peuvent apparaître à ce moment-là et de tyrannie qui peuvent apparaître à ce moment-là d'ailleurs.
Oui.
Voilà, je parle de mon cas.
Là, c'est un peu le mauvais grand. Si je prends un exemple, on est sur un scénario tactique pour résoudre une enquête. La joueuse sociale dit je vais pour que la partie se réussisse, pour que l'enquête soit résolue, donc je vais faire travailler mes cellules grises pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière les indices pour faire progresser le truc. Mais la mauvaise grande, c'est celle qui en fait phagocyterait le jeu en résolvant toute l'enquête à elle toute seule. Et du coup, la bonne grande, entre guillemets, ce serait celle qui je me rends compte que là, je carbure plus vite que les autres, mais si je résous l'enquête toute seule, ça va pas être drôle. Du coup, par exemple, je vais déléguer, je vais dire, ah bah tiens, toi, tu pourras aller peut-être interroger machin, ah bah toi, tu pourras peut-être aller fouiller telle zone, et ainsi de suite, quoi. Ou voire même, carrément, pour aller plus loin, faire un petit peu, être un peu socratique, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà deviné qui est le tueur, mais je vais poser des questions aux autres jusqu'à ce qu'ils devinent eux-mêmes, quoi.
Ouais, c'est très intéressant parce que c'est... Alors, on a assez peu, dans le corpus rôliste de conseils aux joueurs. On a beaucoup, beaucoup de conseils au maître du jeu, on a assez peu de conseils aux joueurs. Il y en a quand même, hein. On a eu Eugénie qui donne des avis très intéressants là-dessus. Mais je me souviens notamment d'un podcast américain ça doit être un épisode du NPC Cast, hein, pour ceux que ça intéresse, en anglais, qui citait les règles pour être des bons joueurs. Qu'est-ce que c'était qu'un bon joueur autour d'une table ? Et je me rends compte en discutant avec vous ce soir que nombre de ces...
Un bon joueur, il lance les dés, quoi. C'est un bon joueur.
Voilà, ouais, non, mais ils ont pas la... Alors, c'est l'avantage, tu sais. C'est l'avantage, c'est des Américains, donc ils ont pas la référence inconnue. Ce qui était très intéressant par rapport à ce qu'on dit ce soir, c'est que 80% de leurs conseils, c'était des conseils pour fonctionner en bon joueur social, quoi.
Ok.
Donc c'est
quelque part comme tu l'as, comme de la façon dont je te l'explique, finalement le joueur social, c'est lui qui il est bon partout en fait.
Non, pas nécessairement. Je suis pas d'accord avec toi.
Ou en tout cas, il fait des efforts partout. Plutôt ça, il fait des efforts.
Voilà, donc, c'est très différent. Parce que
il va identifier quels sont les domaines qui sont attendus de lui dans la partie, et il va faire des efforts dans ce sens-là.
Voilà.
Et parfois, l'effort consiste à justement ne pas intervenir et se mettre en retrait.
Justement, parce là, on en vient complètement au côté social. C'est une personne qui va être attentive à la gestion de la parole.
Ouais.
Pas forcément aussi à la gestion de la parole, aussi à la gestion des forces et des faiblesses de chacun. À la gestion des... tout le monde n'est pas aussi à l'aise à l'oral. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise sur un point de vue tactique, sur une partie d'énigme. Chaque joueur autour d'une table a généralement sa ou ses spécialités. Pour moi, un joueur social, c'est également quelqu'un qui sait à quel moment il n'est pas capable de le faire ou d'aider et qui sait se mettre en retrait pour laisser une autre personne... prendre le rôle et briller.
J'ai l'impression qu'on est en train de décrire le saint joueur social qui se sacrifie pour les autres et qui est l'être parfait, alors, etc.
Non, je ne pense pas que ce soit un sacrifice parce que c'est dans l'optique de faire avancer la partie. C'est parce que simplement savoir se mettre en retrait, c'est pour que c'est non pas « je me sacrifie », c'est « je me mets en retrait parce que comme ça, nous allons avancer ».
Oui, oui, bien sûr. Je caricature un peu, mais ce que
mais
je
ça veux... peut être aussi. D'ailleurs, ça peut être, à l'inverse, ça peut être une personne qui s'épanouit, au contraire, dans le dialogue avec les autres, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, il va y avoir des longs échanges, de dialogues avec un PNJ ou entre PJ, parce que c'est une personne qui a la tchatche et ça peut être aussi un régal pour le reste de la table. Tu vois, d'écouter un bon role player entre guillemets, échanger avec toi.
Ben justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je connais un certain nombre de joueurs qui sont très très bien sur ce côté organisationnel, répartition, etc., mais qui sont par exemple des au niveau roleplay, on va dire très mauvais, c'est-à-dire que ils parlent toujours de la même façon, il y a pas de différence visible entre leurs rôles et c'est jamais crédible, quoi. Ne serait-ce que le vocabulaire n'est pas adapté, etc. Mais en revanche, ils apportent vraiment une bonne humeur et une bonne partie, quoi. Je voulais juste contrebalancer le fait qu'on était en train de monter une image de joueur qui me semblait idyllique. Et c'était juste pour dire que ça ne l'était pas seulement parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de bons joueurs esthétiques dans le podcast esthétique. Tu vois, on n'avait pas ce jugement de valeur là.
Oui, c'est vrai, on a un peu écarté le sujet. Ouais. L'autre aspect, entre guillemets, autour de ces idées autour de la parole, c'est notamment comme c'est une personne qui peut avoir la gestion de la parole à l'esprit, elle va notamment réguler les apartés. Bon, bah, si c'est un MJ, par exemple. Il va se dire bon bah les apartés faut que ce soit à bon escient parce que si on fait que des apartés tout le temps eh bien il y a des gens qui s'ennuient, quoi. Ou alors au contraire, si on a décidé qu'on partait sur vraiment coup de pute entre amis, eh ben il y aura des apartés longs et je vais m'arranger pour que les autres joueurs fassent des apartés entre eux, quoi, entre guillemets, que ce soit dynamique et que ça joue tout le temps, quoi. Ainsi de suite. Ou alors, il y a à l'opposé du spectre, c'est-à-dire on interdit les apartés, on joue et comme ça, il y a jamais d'ennui. Aller plus loin, il y a le fameux tous dans le minibus, hein, c'est-à-dire que pour que tout le monde soit intéressé par ce qui se passe, eh bien, on a la convention entre guillemets sociale que les personnages sont toujours groupés et que en plus ils se font jamais de sales coups entre eux, quoi.
Ouais. Ça nous renvoie un petit peu à la notion de jeu en transparence, mais qui était plus propre du côté esthétique.
Mais ça peut participer du jeu social. Donc là, tu vas faire du jeu en transparence pour éviter l'ennui.
Ouais, tout à fait, ouais.
Y a ça. Y a aussi une notion d'écoute. Pour moi, il y a deux types de joueuses. Il y a celle qui continue de parler alors qu'il y a un personnage, un joueur qui fait sa description. Puis il y a celle qui se taise et qui écoute.
Ouais. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur ce sujet-là ou est-ce qu'on passe à la suite ?
Bon, l'équilibrage des temps de parole, j'ai noté. Il y a ce que Eugénie appelle jouer au service.
Oui, tout à fait. Ouais.
Épouser les propositions narratives des autres par les siennes propres. Quoi. Je vais prendre un exemple. Si on joue des flics et qu'il y en a un qui joue un flic ultra rebelle à l'autorité, eh ben toi, tu veux jouer un flic qui, au contraire, qui au contraire est plutôt vraiment toujours à respecter la hiérarchie, juste pour pouvoir créer du jeu, quoi.
Ouais.
Voilà. Et le dernier point de cette joueuse sociale, c'est quand la joueuse sociale interprète un personnage social. Tu parlais de l'archétype de la maman, à Libreté, le jeu de Vivien Féasson. Il y a plein de jeux où il y a des archétypes sociaux. Hein. Il y a le fixeur, je crois, notamment dans Shadowrun.
Oui, enfin tout ce qui est fixeur, tout ce qui est considéré comme face aussi. Donc c'est dans le... Ah, c'est futé dans l'agence au risque, quoi. C'est le type qui va faire l'interface sociale avec le reste du monde quand les autres joueurs sont vachement concentrés sur des tâches beaucoup plus spécialisées de combat, de magie, d'enquête, etc. Quoi.
Dans Apocalypse World, il y en a plein. Il y a le tout, en fait, ils ont presque tous un côté social. À la limite, ce serait presque le seul jeu où tous les archétypes, en fait, c'est des archétypes sociaux, quoi. Je crois qu'il doit y avoir un archétype qui est vraiment... À part Petit, là, comment elle s'appelle ? La beauté fatale, qui est du coup, pour le coup, un peu loup solitaire, quoi, sur les bords. Quoi. Mm-hmm. Mais sinon, c'est assez marrant de voir à quel point Apocalypse joue avec le côté social. Bon, il y a le fameux Bard dans Donjons et Dragons. Hein.
Ouais,
on ne présente plus, que tout le monde déteste.
N'est-ce pas, Sandra ?
Parce qu'il sert à rien.
Ah non, objection, hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais objection très forte.
Le barde est très utile entre les mains de Sandra.
Non, mais c'était un troll, hein. C'était une référence à un article de Zach Smith qui explique pourquoi il détestait barde.
Brûlez-le.
Bah, c'est Zach Smith en même temps, donc ça n'est pas du tout un habitier des articles polémiques.
Voilà, exactement. Et du coup, y a une belle synergie en fait en général quand la joueuse sociale interprète un peu un personnage social, forcément quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment une synergie ? Parce que quelqu'un qui peut être social, qui peut avoir le comportement d'un joueur social, n'est pas forcément quelqu'un qui est à l'aise à l'oral et qui peut aimer interpréter un personnage social.
Ouais. Et puis peut-être qu'à l'inverse, il y a aussi le risque de vraiment bouffer l'écran si à la fois t'es très investi dans la réussite de la partie, l'ambiance du groupe, et qu'en plus t'as un personnage social que tu interprètes à fond, il y a le risque que finalement tes efforts pour que ça se passe bien font qu'on n'entend plus que toi, quoi.
Oui, c'est un moyen de phagocyter une partie. C'est... Ouais. Quelqu'un de social, c'est plutôt quelqu'un qui était hors champ, entre guillemets. Tout ce dont nous parlons au point de vue du joueur social, c'est quelque chose que la joueuse sociale fait hors champ. C'est son personnage, si en plus de cela, lui-même, il fait hors champ ce que le joueur fait hors champ, c'est...
Du coup, le bon équilibre pour toi, ce serait peut-être... Une joueuse qui a un personnage social et qui est bien investi dedans, quoi. Du coup, elle va faire du social au niveau du roleplay. Et puis, une joueuse à côté qui va faire du social au niveau du méta, quoi.
En fait, je pense que l'équilibre dépend de la table. Parfois, c'est la même personne qui aura les deux casquettes. Mais sur la plupart des tables, généralement, c'est deux personnes différentes qui ont ces casquettes. Et c'est ce qui permet d'équilibrer la table. Parce que si la joueuse sociale n'est pas à table et qu'elle a en plus le personnage social dans un jeu social, bah, autant dire que si la personne est absente, bah, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de partie. elle est encore plus importante, cette personne, que le MJ.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, absolument, ouais.
Et donc,
la répartition des rôles, c'est quelque chose que je pense est importante autour d'une table.
Quitte avec, du coup, avec possibilité de switcher avec, entre guillemets, certains joueurs qui puissent être multicasquettes. Et s'il y en a un qui est absent, du coup, l'autre va prendre son rôle le temps de la séance, quoi.
Tout à fait. Pour assurer que tout le monde passe un bon moment de convivialité et puisse apprécier sa partie.
Genre, bah, la joueuse du bard n'est pas là, du coup, c'est le barbare qui va scoltiner toute la diplo juste sur cette séance, quoi.
Oui, et ça risque en plus d'être marrant.
N'est-ce pas ? Et en fait, l'idée, c'est quand on a une, entre guillemets, quand on a une table majoritairement composée de joueuses sociales, on arrive à quelque chose qui s'appelle la connivence. C'est, du coup, c'est le. On avait parlé de l'harmonie dans le podcast esthétique, c'est un peu le pendant social, la connivence. C'est une façon de jouer qui privilégie la complicité et la bonne entente au sein de la table, avec du coup notamment une gestion du temps de parole et des temps de spotlight, hein, des temps de projecteur pour chacun, et un jeu qui s'assure que tout le monde reste dans sa zone de confort, quoi.
C'est-à-dire qu'on a quitté l'aspect exploration du jeu, là.
La connivence, du coup, on est vraiment sur du méta, ouais, tout à fait, ouais.
Je réagis au fait d'être dans la zone de confort de chacun. Ça me pose un petit problème parce que j'ai l'impression qu'une table où t'as de la connivence qui intervient, ça va en fait étendre les zones de confort de chacun, comme quand t'as un contrat social bien clair, bien défini, le fait de mettre des possibilités d'interruption, etc. Est-ce que la connivence, elle s'installe quand tu es dans cette zone de confiance, ou est-ce qu'elle permet de rester dans la zone de confiance parce qu'on a étendu cette zone, tu vois?
Du coup, on a toujours ces notions de bon grand et de mauvais grand. Hein,
ouais.
Il y aura peut-être le groupe qui va jamais prendre aucun risque. Et du coup, il est en confiance, mais dans une zone qui est très large. Et effectivement, le groupe où chacun va tirer l'autre vers le haut, et on va pouvoir au fur et à mesure aller vers des choses de plus en plus éloignées de la zone de confort de départ. Mais on reste en confort parce qu'effectivement, notre zone de confort, elle a grandi, quoi.
Mais le groupe, dans ce cas-là, a une influence en fait très très importante, quoi.
Tout à fait. Avec le risque toujours, c'est là où on aurait une connivence qui marcherait pas, c'est que on parle du phénomène d'entraînement social. Par exemple, on fait du jeu d'horreur, et il y a une connivence qui s'est installée sur le fait de jouer bien un trash, sauf en fait il y a une personne à la table que ça met mal à l'aise, sauf qu'elle n'ose pas le dire parce qu'elle a l'impression que tout le reste de la table s'amuse. Donc ça, c'est, entre guillemets, ça peut être un effet pervers de la connivence, quoi. Ou entre une mauvaise... une mauvaise connivence.
Ouais.
Et du coup, ça veut dire que l'écoute et puis le dialogue est important, quoi.
C'est une pression sociale à la place d'une connivence, quoi.
Voilà, tout à fait, oui.
C'est cela aussi que je voulais dire, c'était plus qu'à un moment, peut-être la connivence, il y a un effet pervers, c'est que les personnes, tout le monde veut que la partie se passe bien, tout le monde se met en retrait, n'exprime pas ses choix, car tout le monde souhaite que les autres puissent s'amuser et exprimer des choix, et cela peut amener la partie à stagner, parce que tout le monde, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus,
et ceci
il n'y a plus de mise en limite de la zone de confort.
Et je pense que c'est aussi pour ça, tout à fait, et c'est aussi pour ça que, à mon avis, la joueuse sociale, elle doit continuer à prendre en compte ses propres attentes, son propre plaisir. Parce que si elle joue uniquement pour que les autres s'amusent et qu'elle met de côté ce qui l'intéresse elle complètement, elle va finir quand même par être en malaise, et finalement, son malaise à elle risque de ruiner le plaisir de la table, mais des fois, ça va être longtemps après. C'est-à-dire que en débriefing ou même longtemps après que la campagne soit terminée, la joueuse va dire ouais bah là sur ces moments-là je me suis ennuyé ou j'ai été choqué ceci cela et j'ai pas osé le dire parce que tout le monde avait l'air de s'amuser, puis finalement rétrospectivement en l'avouant, elle va gâcher le plaisir de tout le monde. Et donc du coup une attitude qui me paraît vertueuse, c'est une attitude que j'appelle « qui se sent mal doit le dire ». C'est-à-dire que si à un moment, tu es en situation d'ennui, d'inconfort, d'incompréhension, ceci, cela, c'est mieux de le dire plutôt que de se taire sous prétexte que ça pourrait nuire à l'amusement de chacun.
Le dire et en tirer les conséquences, hein. Parce que le dire ne suffit pas toujours.
Donc le dire et éventuellement formuler des demandes, quoi, dire bah, là je suis mal à l'aise, j'aimerais que avec ce thème par exemple, donc j'aimerais qu'on arrête d'en parler. Ou là je m'ennuie, j'aimerais bien que le jeu soit plus speed. Ou là je trouve qu'on fait trop de jeux solo, je voudrais qu'on joue plus en équipe, je voudrais qu'on soit plus tous dans le minibus, quoi, ainsi de suite, quoi.
Ouais, tout à fait. Et bon, ça implique qu'il y a toujours besoin d'une très grande communication autour d'une table de jeu.
Mais ouais, puis faire des pauses fréquentes pour demander si ça va.
Moi, j'y vois aussi une raison d'une forme de burn-out, en fait. Dans le cas précis de MJ, je peux prendre mon cas particulier. J'ai été MJ organisateur, etc. sur du GN Vampire pendant à peu près 6 ans. Avec un boulot quotidien assez important autour de ça, parce que on jouait tous les mois dans la sauce, enfin bref, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais c'est vrai qu'à la fin, je ne le faisais que pour les membres de la sauce, que pour le groupe, et pas du tout pour mon propre plaisir. Et ce qui fait que j'ai fini par en avoir tellement marre que j'ai tout lâché complètement, au point de ne même pas continuer à aller jouer, si tu veux, une fois que j'avais transmis ce rôle organisateur, quoi.
Ouais, du coup, il y a un besoin quand même de s'écouter aussi soi-même, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est de ça que je parle aussi, en tirer les conséquences, quoi. Savoir s'arrêter avant de griller, en fait. On a mis en place ces dispositifs-là quand on fait de l'exploration esthétique, morale, etc., sur des termes, des sujets qui sont difficiles à tenir. J'ai l'impression que, puisqu'il y a ce côté dévotion qui revient pas mal dans le côté jeu social, bah, il faut s'écouter, comme tu dis. Et c'est très très important de le faire, je pense.
Ouais, du coup,
ne jamais perdre de vue son propre
social,
plaisir, quoi.
L'investissement personnel, l'investissement de chacun, ça fait partie des choses à négocier dans un contrat social. Ça peut être de dire, bah, écoutez, je vous préviens... Moi, j'ai pas le temps de faire des scénarios, ou alors j'ai pas le temps d'écrire un background de personnage de 3 pages. Donc, soyez sympa, adaptez-vous, quoi. Comprenez que je vais improviser, ou comprenez que mon personnage, il va être pas très étoffé au départ. Donc, effectivement, cette notion d'investissement, pour moi, elle fait partie des choses à négocier dans le contrat social.
Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important pour en négocier, c'est qu'on s'entend avec une table, qu'on apprécie de retrouver la table, c'est de ne pas hésiter à dire ce jeu, je m'en suis lassé, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose, je ne veux pas vous quitter, vous gardons le même créneau, mais peut-on changer de jeu, terminons l'arc. Je pense que c'est important pour garder justement une bonne ambiance également autour d'une table.
Ouais, parce que sinon tu finis la campagne en tuant tout le monde.
Voilà,
c'est... parce que t'as pas osé dire que t'en avais marre du jeu, ouais.
Oui, je pense que c'est très important que tous les joueurs n'hésitent pas à dire « le jeu me lasse, mais vous, je vous aime, changeons de jeu ».
Oui, mais c'est là que le jeu social vient à notre secours aussi. C'est que, parce que ce que tu décris, c'est un peu ma situation dans la campagne de Shan qu'on a actuellement, en fait. J'en ai un peu marre de ce jeu-là, qui remporte pas mes intérêts actuellement. Enfin, il ne me satisfait pas. Par contre, la table, je l'aime bien, on se marre, on passe des bons moments, et donc je trouve mon plaisir maintenant dans le côté social, et c'est vrai que pour l'instant, le contrat, c'est on termine cet arc, effectivement, et ensuite on s'arrête, on change, on fait autre chose, on y reviendra peut-être plus tard, mais pour le moment, on s'arrête, quoi.
Et t'as aussi les joueuses qui ont plusieurs groupes.
Ouais, ils tout
savent
à fait.
Que là, c'est le groupe de DD5. Voilà, ils jouent avec DD5, on fait du tactique, on lance des dés, on a des feuilles de personnages qui font 5 pages. Et puis, du coup, avec ce groupe-là, on fait ça, c'est bien. Et puis, à côté, j'ai le groupe qui fait des jeux moraux avec des feuilles de personnages épurées et des personnages torturés. Bah, c'est pas grave, c'est leur style. Moi, j'aime bien les deux groupes et du coup, c'est moi qui m'adapte. En fait, je suis prêt à suivre. De façon de jouer complètement différente d'un groupe à l'autre, quoi.
Ou même d'un jeu à l'autre, d'ailleurs.
Et puis cela aussi permet, bah, je pense que cet état d'esprit permet de s'enrichir. c'est faire preuve d'adaptabilité. Et l'adaptabilité...
D'éclectisme aussi, ouais.
Oui. Et c'est de nos jours, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours. Milieu professionnel, milieu en famille, savoir adapter ses comportements, des réactions, des stimuli. C'est s'adapter à une table de jeu de rôle, c'est vraiment, on retrouve autour du jeu de rôle ce qu'on retrouve dans la vie professionnelle, ce qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. La joueuse de rôle social, c'est quelqu'un qui est adapté à une vie en entreprise, à une vie en collectivité.
Ouais, c'est souvent une des choses qu'on met en avant quand on essaye de trouver les bénéfices, les compétences transversales qui sont développées dans le jeu de rôle, ouais.
Ok, passons peut-être à la suite.
Alors la suite, c'était, je voulais parler des interférences. Alors ça, bon, je suis sûr qu'on peut trouver du positif, parce que les premiers exemples qui me viennent, c'est des exemples un peu dysfonctionnels, mais c'est les interférences entre le roleplay et l'interpersonnel.
Ouais, le mélange de ce qu'on a, le mélange en jeu hors jeu.
Ouais, voilà. Régulièrement, donc, quoi. Truc tout bête, hein, je me suis fâché avec Y et du coup je vais pourrir son perso pendant la partie. Mais tu vas trouver aussi le cas typique tu vas faire venir les deux super potes à la table, systématiquement leurs personnages vont être potes, même s'il y a pas les raisons narratives sont cousues de fil blanc, ils vont s'entraider alors que normalement les ethnies qu'ils ont choisies ou les classes de personnages qu'ils ont choisies feraient qu'ils pourraient pas se blairer, mais les persos vont forcément s'entraider et être comme cul et chemise. Ça fait des espèces de duos improbables. Juste ouais. Parce que les deux joueuses ou les deux joueurs sont hyper potes dans la vie, quoi.
Ouais, et les autres joueuses qui seraient dans l'esthétique, ça leur paraît tellement absurde que ça peut leur poser des problèmes. Mais, ouais. Mais tu as aussi des côtés positifs à ça. Par exemple, tu as une joueuse qui va mal, le reste de la table qui va prendre soin d'elle en faisant attention à ce qui va se passer pendant la partie et en accordant plus d'importance à son ressenti en tant que personne qu'à la logique du jeu derrière, quoi. Ça peut être positif à mon avis ce côté-là. Mais ouais, c'est des relations d'amitié, je suis pas sûr que ce soit spécifique au jeu de rôle, quoi.
Ouais, tout comme il y a machin qui vient de perdre son boulot cette semaine, sa nana s'est barrée, tout ça. Bon bah on sait que vendredi soir, on va faire, entre guillemets, une grosse partie des fouloirs et fun pour que lui puisse relâcher un peu de pression, quoi.
Et puis ça va être lui le héros, et puis tout le monde est d'accord, quoi. Ou on sait qu'il aura du mal à jouer ce soir, mais on va pas exiger beaucoup de lui parce que c'est pas le moment, quoi.
Ouais, voilà, donc ça arrive aussi. T'as la joueuse qui... on accepte que sur cette partie-là, elle soit un petit peu centaurette. Parce qu'on sait qu'elle est effectivement pas bien dans ses baskets.
Ouais. Et puis tu as aussi des côtés très négatifs, des gens qui essayent de corrompre leur maître du jeu en lui apportant à manger, à boire, etc. Quoi. Ouais.
Tout à fait. Il y a le comment. Je sais que moi j'avais une table de jeu. Il y a un moment, il y a eu des frictions parce que. Les copains avaient le sentiment que le MJ favorisait très excessivement sa petite amie en fait dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que c'était le personnage de sa petite amie qui était toujours sur le devant de la scène. S'il y avait une Némésis à affronter, c'est forcément elle qui allait l'affronter. C'était son arc narratif qui était développé en priorité et tout. Alors je sais à ça. Est-ce que vraiment c'était le cas? Ou est-ce qu'il commençait à psychoter et tout? Mais ça avait été source de tension à un moment, quoi.
Bah, t'as deux éléments. T'as effectivement ce genre de situation, on a tous rencontré ou entendu parler. Mais c'est aussi vachement plus facile de mettre en cause quelqu'un en disant « Ouais, mais c'est parce que tu couches avec le MJ » que de se remettre en cause soi dans la façon dont on aborde la partie, quoi.
Ouais.
Et puis, il y a aussi parfois le fait que le conjoint ou la conjointe du MJ est quelqu'un qui débute. Et débute uniquement parce que c'est le MJ qui maîtrise. Dans ce cas, le MJ, c'est pas qu'il apporte forcément plus d'importance à son conjoint ou à sa conjointe. C'est juste qu'il apporte encore plus d'importance à un débutant.
Mais du coup, t'as aussi...
Pour l'insertion au milieu d'une table.
Ouais. T'as aussi la personne qui est à la table... Et déjà souvent ça peut être le conjoint ou la conjointe justement, mais ça peut être le frère, la sœur ou le cousin qui est là ce soir. qui est à la table, qui est pas forcément fan de l'activité jeu de rôle, mais il est là parce que, entre guillemets, il a pas trop le choix, quoi. Est-ce que c'est un cas un peu compliqué à gérer, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais effectivement, ces interférences et ces interactions entre l'interpersonnel et le roleplay, comme tu dis, y en a partout, et c'est à la fois ce qui fait, à mon avis, la force du jeu social, parce que c'est justement en faisant attention aux personnes qui sont autour de la table que tu vas réussir à booster l'activité dans le jeu, par le jeu social. Mais évidemment, ça a les défauts de ses qualités. Hein. Si ça se passe mal, ce côté-là, c'est des tables qui peuvent se mettre à éclater, etc.
Ouais.
Donc il faut y faire attention, à mon avis.
Je pense que jouer au jeu de rôle avec son conjoint ou sa conjointe, c'est le plus gros écueil pour beaucoup de joueurs et de MJ.
Écoute, je ne sais pas.
et en même temps, c'est, si tu veux, comme le jeu de rôle, c'est une activité qui est chronophage, il y en a pour certains, la question qui se pose, j'empiète un tout petit peu sur un point qui va venir, mais... je pense qu'il y en a pour qui ça se pose vraiment la question de savoir si je dois avoir un conjoint et une conjointe, est-ce que je choisis quelqu'un de rôliste?
Ouais.
Ça devient carrément, ça peut être un critère, entre guillemets, de sélection amoureuse, quoi.
Ou un sportif, ou quelqu'un qui a des activités chronophages lui-même et qui peut comprendre ce qu'est une passion et une activité chronophage, pas forcément quelqu'un de rôliste.
Ouais, ça c'est une autre façon de voir les choses, ouais. Le point suivant que je voulais aborder, c'était le jeu de rôle comme expérience de découverte de l'autre. Il y a la fameuse phrase de Descartes qui est « Laissez-moi jouer avec une personne une fois et j'en apprendrai plus sur elle que pendant une année de conversation. » Et je pense que ça, c'est... Alors, je sais pas si vous connaissez le roman La joueuse de Go, où en fait, deux personnes apprennent à se connaître intimement en jouant ensemble au jeu de Go. Parce que par l'analyse de la façon dont l'adversaire place ses pions, elles comprennent toute sa psychologie. Bon, la métaphore est osée, elle tient à la fois de la vérité sociologique, mais aussi du procédé littéraire. Mais je pense qu'en jeu de rôle, cette notion de connaître l'autre par le jeu est vraiment importante. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement occulté cet aspect-là du jeu social. Dans le jeu social, et cette notion justement d'en apprendre plus sur l'autre. L'archétype du jeu social, par exemple, c'est action et vérité. Action ou vérité. Action et vérité, c'est la version hardcore. Tu veux à la fois l'action et la vérité.
Ouh, c'est pour les vrais joueurs, ça.
Voilà. Donc, du coup, le jeu de rôle comme instrument de découverte de l'autre.
Écoute, je sais pas. Je pense que c'est possible, mais je pense aussi que le jeu de rôle est une activité qui demande un tel investissement que tu ne présentes pas nécessairement le même visage aux autres joueurs autour de la table que dans d'autres milieux. Tu vas révéler des choses que tu ne révélerais pas ailleurs, parce que tu as des peurs, notamment de, tu sais, les fameuses peurs de l'obscène, du ridicule, etc., qui vont être gommées par le fait que tu es un personnage entre toi et les autres, qui est plus ou moins transparent. Mais à l'opposé, il y a des choses que tu vas jamais faire intervenir. Alors peut-être qu'on peut les voir en transparence dans la façon dont tu joues, mais je suis pas sûr que tu apprennes les mêmes choses, en fait, qu'en discutant ou qu'en buvant un coup avec les gens. Tu vois,
Surtout le entre guillemets, comme on est sur des fois tu connais bien la personne telle qu'elle régirait finalement dans des situations imaginaires,
ouais, tout à fait, ou qu'elle aimerait bien réagir en fait,
ou qu'elle aimerait bien réagir, parce qu'effectivement, si je te fais jouer une prise d'otage en jeu de rôle, tu peux avoir des réactions qui peuvent être distanciées et flegmatiques, entre guillemets, que effectivement dans la vraie vie, il y a des chances que tu paniques et que tu ferais pas du tout le membre d'équipe d'intervention ultra pro que t'as été dans la partie de jeu de rôle. Ouais.
Absolument. Ouais.
Donc ça, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on apprend de la personne? On en apprend finalement peut-être qu'un potentiel, quoi.
Je pense qu'on n'apprend pas les mêmes choses, en fait. Parce qu'on n'a pas, le même angle de vue sur les personnes en question. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Sandra ?
Pour moi, les personnes, tout le monde porte des masques. et c'est des masques différents selon son interlocuteur et selon la situation dans laquelle est la personne. Il n'y a jamais personne qui est totalement à nu face à nous ou qu'on peut lire. Tout le monde nous présente certaines facettes qu'ils veulent que nous voyons et nous présentons nous-mêmes au monde un certain aspect selon notre interlocuteur. On s'adapte automatiquement à une conversation avec une personne ou autour d'une table. On a un diamant à multiples facettes au niveau de nos personnalités.
À ceci près que c'est pas aussi maîtrisé qu'on aimerait bien le croire. Il y a ça aussi.
Oui.
J'ai l'impression, par exemple, des trucs qui ressortent bien en jeu, c'est que je trouve que des fois, tu reconnais bien assez bien la couleur poétique de la personne. Souvent, les opinions politiques de la personne, tu vas bien les sentir dans la partie, enfin, dès qu'il y a, entre guillemets, dès qu'il y a des enjeux un peu poétiques dans la partie, évidemment, mais... J'ai l'impression que c'est le truc qui ressortait le mieux.
Tu crois ? Je sais pas. C'est possible.
C'est-à-dire que le mec un peu anarchiste dans sa tête, ça va se sentir soit dans comment ça va se sentir soit dans le roleplay de son personnage puisqu'il aura joué un anarchiste, soit dans les soit dans ses commentaires méta parce qu'il peut très bien jouer quelqu'un qui est à l'opposé de ses opinions personnelles, mais dans ses commentaires on va sentir qu'en fait le mec il est un peu anar, ou inversement t'auras le gars qui sera de droite, ainsi de suite.
Ou est-ce qu'il jouera pas quand il joue un personnage qui n'est pas de sa couleur politique, est-ce qu'il jouera pas justement quelqu'un qui est caricatural? Tu vois, et donc ça pourrait se déduire en creux quelque part. Ouais, c'est bien possible.
Il y a un petit jeu de psychologie. Souvent, c'est le jeu justement essayer de disséquer les informations que l'autre te donne pour essayer d'en déduire la personne qui est vraiment ou les opinions qu'il a, quoi.
Ouais, tu vois, moi le parallèle auquel je pensais, c'est que il m'est arrivé deux trois fois de monter sur une scène slam. Les textes que j'ai lus à ce moment-là. C'est pas des choses dont je parlerais autour d'une table de jeu de rôle, tu vois. Alors peut-être que un certain nombre de gens qui me connaissent bien autour des tables de jeu pourraient les déduire, si tu veux. Mais c'est pas des sujets qui seraient abordés directement.
Mais après c'est pareil, voilà. Aussi, ça va dépendre de comment tu vas amener. Ça va dépendre des personnes que t'as à la table. C'est-à-dire que si tu veux jouer aux cordes sensibles, tu sais, par exemple. Ou tout jeu un petit peu qui joue sur les émotions, tu vas peut-être choisir les personnes avec qui tu vas jouer, et en fonction des personnes que tu vas avoir en face de toi, tu vas pas te livrer de la même façon, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Ça va dépendre si t'es en confiance ou pas, quoi, avec la personne, quoi.
Et si tu as la barrière de l'anonymat ou pas aussi, parce que tu vois, en jeu, en convention, quand tu joues avec des gens que tu ne reverras jamais, tu peux avoir des comportements de joueurs qui ne sont pas du tout ceux qu'ils auraient autour de leur table habituelle.
Oui.
Bref.
Ouais. Et il y avait aussi cette idée de... Comment Alors c'est une idée que défendait Didier Guizrix, c'est une table ronde qu'on a écoutée tous les trois là, la table ronde aux Utopiales, jouer ensemble lorsqu'on est un personnage. Et Didier Guizrix expliquait ça, alors vous m'aiderez parce que je suis pas sûr d'avoir exactement bien compris là où il voulait en venir, mais qu'en grosso modo on pouvait utiliser le jeu de rôle et nos personnages en fait pour s'envoyer des choses à la gueule entre joueuses ou entre joueurs, quoi. En fait, utiliser les personnages comme miroir déformant, et puis t'as vu là par exemple, s'il y a un joueur qui est radin et que son personnage l'est effectivement, on va le charrier sur la radinerie du personnage qui met tout le groupe dans la mélasse, ainsi de suite, et qu'on va un petit peu se taquiner, tu vois, parfois gentiment, parfois plus durement, par le biais des personnages, quoi. Je ne sais pas si vous en avez retenu la présentation les interventions de Didier sur cette table ronde.
Je t'avoue que c'est un peu loin maintenant.
On n'est pas potes du tout.
Hein. Je n'y ai pas assisté.
Non, toi, tu faisais jouer des enfants à ce moment-là.
Ah oui, okay, t'étais juste là, mais t'avais pas vu la table ronde, ouais.
Bah oui, il y avait l'atelier enfant qui tombait aux horaires des conférences.
Mais on mettra le lien.
On mettra le lien vers la conférence, oui, tout à fait. Je t'avoue que je ne m'en souviens plus, il faudrait que je la regarde à nouveau pour savoir ce que j'en pense, mais effectivement, charrier ton pote sur ses défauts à lui à travers des personnages et à travers des comportements de personnages, ça arrive fréquemment quand tu joues avec des gens que tu connais bien, bien sûr.
Ouais. Ou à l'inverse, hein, je veux dire, entre guillemets, une façon de féliciter tes amis ou les célébrer, célébrer certaines de leurs qualités par le biais du jeu. Je pense que ça se fait aussi.
Oui, tout à fait, oui, absolument.
Oui, mais il faut faire attention dans ce cas à ne pas retomber dans les interférences entre le roleplay et l'interpersonnel.
Tout à fait.
Ah oui, et en même temps, dans l'exemple que je cite, je pense qu'on est complètement dedans, en fait.
Ouais. Et ça pose même des questions qui peuvent aller plus loin. Je sais qu'il y a des émissions qui devraient en parler dans quelques temps. Bon, je vais pas les annoncer parce que c'est pas, j'ai pas de date ni rien, donc je ne sais pas. Ce sera pas dans les Bois d'Altaride, hein, et ce sera pas avec nous. Mais il y a des émissions qui se préparent sur la manipulation, notamment des joueurs, en utilisant des données personnelles les concernant pour leur fournir, à partir du moment où tout le monde a confiance les uns en les autres, pour leur fournir des expériences vachement plus intenses, quoi. Alors peut-être qu'on en reparlera dans le jeu moral de ce genre de choses. Mais ça fait partie du côté interférence, roleplay interpersonnel, quoi. Utiliser ce que tu sais du joueur pour lui fournir des expériences de jeu plus intenses.
Ouais, tout à fait, ouais.
Pour l'instant, je le dis sans jugement. Mon opinion personnelle, c'est que c'est très très dangereux. Mais que ça peut, quand t'es vraiment en confiance, peut-être que ça peut être bien. Voilà.
Il me semble que nous en avions légèrement abordé ce sujet lors des dilemmes moraux.
C'est possible, ouais.
De pouvoir proposer un dilemme moral que nous sachons faire écho chez le joueur ou la joueuse à qui nous proposons ce dilemme.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, bon, évidemment, il y a un débat déontologique sur s'il faut le faire ou pas. Bon, là, on n'a pas trop le temps de l'aborder, et puis je pense que ça sortirait un petit peu du cadre du podcast.
Tout à fait, oui.
Le point suivant, du coup, c'était une sorte d'extrême de toutes ces histoires d'interférence entre le roleplay interpersonnel. Il y a deux points en fait. Il y a le jeu de rôle et les relations amoureuses.
Ouais.
C'est-à-dire que je pense qu'on a tous connu des relations amoureuses qui se sont faites par l'intermédiaire de la partie du jeu de rôle. Alors, moi, par exemple, pour prendre mon cas personnel. Mon épouse, en fait, je sais que je l'ai fréquentée et connue, notamment parce qu'elle avait intégré une campagne de jeux de rôle que j'avais lancée. Quoi. Et ce qui est amusant pour l'histoire, c'est que aujourd'hui, elle est plus rôliste et des fois, pour ironiser, elle m'explique que comme elle a eu ce qu'elle voulait, eh bien, elle n'avait plus besoin de jouer après. Alors, bien sûr, je pense que c'est plus complexe que ça. Hein. Pourquoi elle s'est arrêtée au jeu de rôle, ça se limite pas au simple fait qu'elle ait pu me rencontrer. Hein. Je pense que non, mais je pense qu'il y a quand même souvent le jeu de rôle peut être utilisé comme média de la rencontre amoureuse. Bon, déjà parce que, tout simplement, c'est une occasion d'être ensemble. C'est un prétexte, hein, encore une fois. Hein. Et aussi parce que des fois on peut utiliser son personnage pour faire des tentatives de séduction. Alors avec toute la lourdeur que ça peut impliquer. Hein.
Sans blague. Attention,
on est d'accord que je crois d'ailleurs c'est dans les Voies d'Altaride, je sais plus, vous avez parlé de qu'il y a la fille, la fille dans une asso de jeu de rôle qui était surnommée Charisme 20 ou Charisme 18. Hein.
C'était C17 ou C18, mais apparemment ça faisait référence à la fois au charisme et à Dragon Ball Z. Donc bon, voilà. Oui, effectivement, c'est une anecdote qu'on avait pu évoquer. C'est une activité sociale. Tu rencontres des gens, tu passes du temps avec eux, tu te livres un peu, tu vis des émotions fortes. Il y a effectivement des cas où ça va faire ressortir un certain nombre de choses. Et je parlais de GN Vampire. Je peux dire que c'était un milieu dans lequel le fait de se retrouver à jouer des vampires en costume pendant des soirées très régulièrement, ça a créé des relations nombreuses. Certaines qui n'existaient quasiment que pendant les parties, d'autres qui ont abouti à des mariages, à des unions, etc.
Et justement, j'en viens à là, si on veut, bon, on est dans une société où essentiellement ce qui est toléré, c'est entre guillemets l'amour unique, c'est-à-dire que t'es censé avoir une conjointe ou un conjoint, pas 36, quoi. Le polyamour, c'est quelque chose qui reste assez marginal et assez mal vu, quoi. Et il y a des personnes, en fait, qui vont expérimenter des relations amoureuses extra-conjugales qui vont être uniquement cantonnées, en fait, au roleplay, quoi.
Ah oui, alors ça, j'ai vu beaucoup ça, mais pas tellement autour des tables de jeux de rôle, beaucoup plus autour de gens qui faisaient du roleplay dans des MMO, en fait. Ça, c'était...
Ouais, mais je peux t'assurer que ça existe aussi en jeu de rôle papier, quoi.
Bien sûr, mais je l'ai vachement moins vu, c'est ça que je veux dire, quoi.
Alors, soit avec une personne avec qui t'es réellement amoureux, mais bon, voilà, ça peut pas se faire parce que t'as déjà quelqu'un, ou qu'elle a déjà quelqu'un, ceci, cela, quoi. Mais bon, du coup, tu vas jouer une romance avec son personnage. Ça va être une façon de sublimer ça, quoi. Ou ça peut être, du coup, une sorte de... Comment de marivaudage rôlistique. C'est-à-dire que t'es pas forcément amoureux de la personne, mais pour le plaisir, tu vas, le temps d'une séance, voire même le temps d'une campagne, tu vas jouer une relation amoureuse en roleplay avec elle. Bah voilà, c'est une sorte de flirt, quoi, entre guillemets, quoi.
Oui, d'accord, oui. Effectivement, là, j'ai effectivement des souvenirs de parties jeux de rôle qui remontent quand tu parles de ça, oui. Ça peut être extrêmement drôle, en effet.
Après, la plupart des personnes ne vont pas t'en parler ouvertement, parce qu'on touche à des sujets intimes, notamment le sujet de la passion extra-conjugale, qui est quand même, encore aujourd'hui, assez tabou, quoi.
Est-ce que tu veux nous dire qu'il faut épouser sa table de jeu de rôle? Non, mais effectivement, pour rester sérieux, effectivement, c'est un... Est-ce que ça fait partie... Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves autour des tables de jeu de rôle? Est-ce que c'est quelque chose qui a un vrai grand rapport avec le jeu social dont tu parles? Ou est-ce que c'est un prétexte pour en parler?
L'amour, c'est pas... Enfin... C'est, si l'amour c'est pas quelque chose de social, qu'est-ce que c'est, quoi?
Oui,
c'est
non,
du relationnel,
mais
du coup.
Ouais, tout à fait. Mais c'est ouais, je sais pas. Le rapport avec le jeu de rôle en tant que tel, en fait. C'est ça que je me pose comme question. En dehors du fait que tu te retrouves avec des gens, si, parce que tu peux, ce que tu nous disais, c'est parce que tu joues un rôle, donc tu te permets des choses que tu ne te permettrais pas normalement.
Voilà, c'est-à-dire que le jeu de rôle c'est un espace de transgression, quoi.
D'accord, ok.
Et notamment, c'est du coup, on avait expliqué dans le podcast esthétique, c'était un espace de transgression créative, on va dire, quoi.
Ouais.
Mais c'est aussi un espace de transgression relationnelle, pour le coup.
D'accord.
Où tu peux te comporter différemment que tu le ferais dans la vraie vie, et notamment, tu peux te comporter avec des personnes réelles différemment que tu ferais dans la vraie vie, en utilisant le masque du jeu de rôle, un petit peu comme le carnaval de Venise. Tu prends le carnaval de Venise, l'idée, c'est que du moment où les gens ont leur masque, ils peuvent se permettre des comportements sociaux qu'ils n'auraient jamais d'habitude. Eh ben, on peut se retrouver ce phénomène de liberté temporaire, quoi. On va le retrouver aussi en jeu de rôle. Et je vais plus loin, parce que j'ai parlé de relations amoureuses, enfin, plus loin ou moins loin, ça dépend de comment vous voyez la chose. Mais il y en a de même pour les relations sexuelles.
Oui,
c'est-à-dire que tu vas expérimenter des relations sexuelles avec une personne juste par le biais du jeu de rôle, quoi.
Alors, les experts...
Donc, la prochaine fois que quelqu'un te propose une partie Slay With Me, ça se trouve, en fait, il préférait faire Slay With Me en GN avec toi, tu vois, plutôt qu'en RP.
Ben non, mais justement, tu parles du GN, et c'est ce que j'allais évoquer. C'est un... des thèmes qui sont très souvent... Enfin, très souvent. Qui sont beaucoup abordés en GN, en fait. Et t'as même des techniques...
Parce que c'est encore plus fort, quoi, du coup...
Tu fais intervenir le corps, quoi.
Ouais. Ouais, donc l'implication est beaucoup plus forte, ouais.
Et t'as des méta-techniques de GN, comme celle qu'on appelle l'Ars Amandi, qui consiste à se toucher les mains, les bras, les jusqu'aux épaules, pour, émuler le fait d'avoir une relation intime. C'est-à-dire que quand tu touches les mains, c'est l'équivalent d'embrasser l'autre, puis plus tu montes vers l'épaule, plus tu pousses loin ton affaire, quoi. D'ailleurs, il y a un podcast qui en a parlé de sexe et de jeu de rôle il y a assez peu de temps, qui s'appelle Les rôlistes se mettent à table. Je mettrai le lien. Non, c'est pas Les rôlistes sous la table.
Pas sous la table.
Voilà. Il fallait la faire. Donc, c'est un podcast qui est tenu par Eric Blaise. Et il y avait un certain nombre de gens qui étaient présents et qui ont pas mal parlé pendant assez longtemps de ces thématiques-là. Donc, si ça intéresse les auditeurs, qu'ils n'hésitent pas à aller.
Je crois
l'écouter.
Que Thomas B en parle un petit peu, notamment quand il parle des conventions dans les micros de Radio Rollist, notamment quand il parle des conventions nordiques avec les sauts de préservatifs à l'entrée des salles de GN.
Bah oui, il y a des GN, il y a des GN qui ont une thématique forte de ce point de vue-là, notamment. T'as quand même un GN dont j'ai entendu pas mal parler. Qui était un GN liaison dangereuse, si tu veux. Donc un GN avec le libertinage au cœur de l'histoire. Alors, ce qui veut pas dire que les gens couchaient tous les uns avec les autres, si tu veux. Mais disons que le thème était présent à l'esprit de tout le monde et très très mis en valeur, quoi.
Et inversement, tu peux avoir des comportements qui est de nier, de s'interdire toute relation de type romance ou relation sexuelle en jeu de rôle, parce que t'aurais le sentiment de tromper ton partenaire.
Oui, effectivement, oui, tout à fait.
Ou de te l'interdire quand ton partenaire joue à la même table, de dire bon voilà. Alors soit tu vas interdire en méta en disant bah moi je vous préviens, pas de comment il y a aucune relation amoureuse et sexuelle avec mon personnage, ou alors le jouer en RP, c'est-à-dire que si il y a un personnage qui fait des approches vers toi, eh bien tu vas aller tout de suite vers une rupture, quoi, pour que la relation ne soit pas consommée, quoi.
Ouais, ça jette un éclairage assez intéressant et malicieux sur beaucoup de joueurs en club qui se draguaient, enfin dont les persos se draguaient les uns les autres en permanence autour des tables de jeu, quoi. T'en viens de
bah
demander.
Ouais, parce que je pense qu'il y a des tensions, voilà, il y a sans doute des tensions. Ou par exemple, je prends un autre exemple, tu peux aussi expérimenter, par exemple, si t'es hétérosexuel, expérimenter des relations homosexuelles par le jeu, quoi.
Bah oui,
parce que tu vas jouer une romance homosexuelle, ou parce que tu vas jouer une romance avec le personnage d'un joueur du même sexe que toi.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que dans la vraie vie, tu vas rester straight, hein, mais voilà, le temps d'une partie, ton pote rôliste, t'aimerais bien, donc on va juste le faire en RP, quoi.
D'autant que t'as une et du coup avec les sauts de préservatif, ça fait un sale jeu de mots là. mais j'allais dire, t'as une couche de protection qui est le personnage.
Voilà,
qui te permet de...
Personnage préservatif, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas moi qui fais, c'est le perso, hein, t'as bien compris. Hein. Non, mais c'est intéressant, ouais, de voir à quel point tu peux avoir de transfert, en fait, entre les relations des personnages, les relations des joueurs, et...
Tout comme je pense qu'il n'est pas exclu que tu vas tomber amoureux d'une personne à cause de son roleplay, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas être séduit par son personnage, et du coup, après, tu vas être séduit par la personne.
Oui, alors ça, c'est... Bref. J'ai effectivement vu des exemples assez tragiques de ce genre de choses. Ouais. De confusion entre personnage et personne qui ont mené derrière à des ruptures assez terribles, quoi.
Parce que après, quand tu te rends compte, une fois que tu as une relation avec la personne, que effectivement elle n'est pas la princesse vampire ultra dark qui t'a fait rêver, effectivement la chute peut être lourde.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais.
Alors, on enchaîne si vous voulez bien. Enfin, Sandra, on t'a pas beaucoup entendu sur ces sujets, peut-être t'as des réactions.
Non, pas trop sur ce sujet-ci. C'est l'incarnation des relations amoureuses ou sexuelles autour d'une table de jeu de rôle est un sujet que je fais assez peu, donc...
Ça roule. Bah du coup, si tu veux bien, on va aller à la suite, où tu auras peut-être plus d'eau à mettre au moulin.
Mm-hmm. Sachant qu'on approche, Thomas, de la fin du temps qu'on s'était imparti. Hein. Il va nous rester un petit quart d'heure.
Ouais, mais je pense qu'on est bien là. On a vu quand même que c'était un mode de jeu, on va dire, qui insistait plutôt sur les personnes plus que sur les personnages. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est le discours méta, le commentaire dans le jeu de rôle social, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. C'est-à-dire que, voilà, commenter l'aventure, même faire des blagues en cours de partie, tout ça. Enfin, le méta dans le jeu de rôle social me paraît vachement important, quoi.
Oui, bien sûr, ouais.
C'est un type de jeu où on concevrait pas de juste jouer l'aventure, se cantonner au roleplay et puis à la technique.
Bah, t'as deux choses dans le côté méta. T'as le commentaire méta, qui permet de véhiculer ton approbation, qui permet de véhiculer plein de choses, de partager des moments humains super sympas avec les autres autour de la table. Du coup, en se dépouillant de la coquille personnage à ce moment-là, quoi, puisque tu exprimes ce que toi t'en penses à ce moment-là.
Mais tout comme tu te fais une soirée de DVD avec des copains, puis que tu vas commenter le film en même temps.
Ouais. Mais t'as aussi un autre élément, qui est le plaisir que tu peux avoir dans l'interprétation méta de ce qui se passe autour de la table. Par exemple, le cas typique, c'est je sais que le MJ est Vislard, il est en train de nous présenter un truc, je suis sûr qu'il y a un coup fourré, mon personnage n'a aucun moyen de le savoir, mais moi je le connais, hein, l'animal, je sais qu'il va nous préparer un truc. Et du coup, j'ai un grand plaisir à voir comment les choses vont se dérouler, et en attendant le moment où je vais pouvoir lui dire « Ouais, c'est bon, je t'ai vu venir, là. » Et à mon avis, le méta, il est important de ces deux points de vue-là. C'est-à-dire, utiliser les informations méta pour augmenter ton expérience de jeu. Alors, vis-à-vis d'autres atomes du jeu de rôle, c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant une transgression assez grave. Parce que tu utilises des infos que tu devrais pas avoir. Et on retombe sur le côté interpersonnel roleplay, enjeu hors-jeu, etc. Mais, tu peux avoir un vrai plaisir vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. Parce que tu utilises le fait que tu connaisses les autres, tu utilises la connivence, justement.
Ouais, puis un peu, tu vois, le commentaire, un peu comme commentaire sportif, quoi, entre guillemets, quoi.
C'est-à-dire.
Là il va encore nous faire son truc de bourrin.
Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Ou attends, tu vas voir là, il va encore essayer de noyer les figurants dans son roleplay, ainsi de suite.
Ouais, mais c'est un plaisir qui, à mon avis, est pas nécessairement lié au fait de le verbaliser sous la forme d'un commentaire, si tu veux. Mm-hmm. Ou alors tu le verbalises à la fin, mais.
D'accord. Ouais.
Voilà, tu vois. C'est...
Bah, ça dépend des personnes, quoi.
Oui, ça dépend beaucoup des personnes. Ouais. C'est pour ça que je parlais de deux niveaux de méta différents, en fait.
Sandra, tu voulais dire quelque chose ?
Je pense que le méta le plus efficace autour d'une table, c'est souvent, lorsque du roleplay est passé, c'est aussi, le méta se fait au niveau de la communication non-verbale. Je croise le regard avec une autre personne autour de la table, je la regarde dans les yeux hautes, il y a beaucoup de communication qui se fait au point de vue méta, de ce côté-là.
Ah bah la méta-communication, justement, c'est... Vivien Féasson qu'on a parlé un petit peu effectivement sur son blog aussi. Et là, t'as des trucs très très intéressants, quoi. Eugénie aussi l'évoque assez régulièrement. On parlait du dernier jeu de Vivien sur Libreté et sur l'utilisation de la bile noire dans le podcast esthétique. C'est à mon avis quelque chose qui fait partie du social aussi, de ce point de vue-là. Comment tu vas transmettre un message aux autres sans le dire et sans... comment dire, sans le dire directement, mais en utilisant les outils que tu as autour de la table pour le faire, quoi.
Voilà. Ouais, ou en utilisant aussi des onomatopées, par exemple,
ouais,
si un personnage qui a placé un super coup, te faire bah, vas-y, comment tu veux, tu fais des grands gestes,
des grimaces.
Ouais, voilà, ouais.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est autour d'une table bien plus pratiqué que le méta verbal.
Oh, ça dépend des tables, je pense.
Quand c'est une table RP, souvent c'est du méta non-verbal pour justement ne pas trop couper sur le RP, sauf quand c'est vraiment quelque chose qui peut atteindre la limite de la zone de confort d'une personne à table.
Voilà. Du coup, c'est vrai que le méta-verbal, c'est il y a la fameuse façon de jouer qu'on appelle bière et bretzel, qui pour
ouais,
le coup,
tout à fait,
c'est,
ouais.
Là pour le coup, c'est vraiment un jeu de rôle social, hein, le jeu bière et bretzel.
Oui.
Et d'ailleurs, bah, ça, souvent, ces jeux-là sont très portés sur le côté humoristique, et je crois que tu voulais en parler brièvement.
Oui, en fait, c'était une question qui m'était venue quand il y a eu le podcast sur Tout le monde est jeune à la cellule.
Ouais.
Et où ils essayaient de classer, en fait, selon la GNS, et ils n'y arrivaient pas. Ben, de mémoire, hein. Ils n'arrivaient pas à trouver quelle était la dynamique sociale du jeu. Et en fait, parce que bon, pour faire très vite, Tout le monde est John, hein, c'est un jeu où on joue un seul unique personnage qui est John, qui a des multiples personnalités. Chacun joue un pan de sa personnalité. Et évidemment, c'est des personnalités complètement débiles, quoi. Il y en a un qui joue le John serial killer. Il y en a un qui joue John, comment, qui fait son coming out. Je sais plus. Il y en a un qui joue John le flic pourri, ainsi de suite. En fait, le plaisir du jeu, c'est à voir quelle va être la prochaine connerie que va sortir l'autre joueuse, quoi. Et du coup, l'idée, la question que je me posais, c'est est-ce que le jeu de rôle humoristique serait pas une forme de jeu de rôle essentiellement tournée vers le jeu de rôle social ? Parce que du coup, c'est un peu le jeu bière et bretzel par excellence.
Ouais.
Effectivement.
C'est une bonne question. Jeu de rôle humoristique, quand j'y pense, le premier qui me vient en tête, c'est Paranoia. Et t'as un aspect social effectivement assez puissant, pas seulement, mais t'as un aspect social assez puissant.
Ah, tu vas encore me trahir.
Voilà.
tu sais, il y a toujours le joueur à qui tu sais qu'on peut jamais lui faire confiance, il joue toujours des traîtres et on va charrier pendant toute la partie. De toute façon, toi t'es un traître, c'est sûr, tu joues toujours les traîtres.
Voilà, exactement, ouais, tout à fait.
Toons également.
Ouais,
voilà,
Toons, ouais.
Hein, tout à fait.
Parce que, côté vas-y. Social. Toons, on ne meurt jamais, on tombe, c'est les autres joueurs qui nous remontent, voilà.
Et tu vois, le jeu de rôle humoristique, c'est difficile à dire que c'est un jeu tactique. Bon, après, Paranoia peut être très tactique, mais on s'était dit la dernière fois que Paranoia, c'était un peu le jeu qui avait les quatre atomes à l'équilibre.
Absolument, ouais.
Mais bon, voilà, une partie tactique de Toons ou de Tout le monde est jeune, je vois pas.
Je vois pas non plus, ouais.
Voilà, bon, moral, c'est pareil.
Mais tu vois.
L'enseignement moral d'une partie de Tout le monde est jeune, je vois pas trop. Et esthétique, éventuellement, mais c'est pareil, j'ai du mal à voir les joueuses, entre guillemets, s'efforcer à respecter un canon esthétique de l'humour.
Ouais, c'est. Ça
après,
pourrait, mais.
Après, il y a aussi maintenant des jeux qui sont devenus, entre guillemets, humoristiques, où il y a souvent une connivence autour de la table, même si ce n'est pas le principe du jeu. Je pense à Pas Dragon.
Bah oui, bien sûr.
Pas Dragon, qui est bourré de références à Kaamelott maintenant.
Ouais, c'est ça, le jeu, il a été pourri, enfin, complètement.
Kaamelott, j'adore, je suis fan, mais jouer à Pas Dragon de nos jours, il y a un C'est pas faux qui va surgir au bout d'à peu près 3 secondes, ou alors poulette. Donc, tout de suite,
ouais, c'est clair.
C'est devenu humoristique, il y a de la connivence autour de la table, on est en jeu de rôle social, c'était pas la destination première du jeu, mais c'est dur de faire du Pas Dragon sérieux.
On pourrait parler d'un autre exemple de contamination de jeux non humoristiques par l'humour, mais qui a aussi son propre jeu, c'est le Donjon de Nalbuck. C'est un jeu qui est vachement pratiqué visiblement en France actuellement, qui est gratuit, donc on n'a pas de stats particulières à ce sujet-là, et effectivement qui est complètement tourné autour de ce côté humoristique, délire, bretzel, copain, social, etc.
Ouais,
quoi.
Puis du coup, en plus, avec le côté mise en abîme, tu veux, c'est-à-dire que ça prête le flanc justement à l'autoréférence, et ainsi de suite. Quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ouais, porte ouverte à toutes les blagues, quoi.
Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'on peut enchaîner avec les hybrides ?
On enchaîne.
Alors,
avec les
hybrides, c'est plutôt c'est se poser la question. Est-ce qu'on a du jeu de rôle tactico-social ?
Ah bah,
bon,
alors,
on a Paranoia
absolument.
Qui fait tout. Hein, même
ah non, mais Donjon. Le des parties de Donjon...
Avec la notion de groupe de personnages complémentaires.
Exactement.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Tu joues à la fois pour résoudre les problèmes qui sont mis sur ton chemin, ton donjon, ton machin, mais t'as aussi la coordination du groupe et la discussion entre les joueurs qui est hyper importante, quoi. Et ne serait-ce que un point hyper important, souvent, c'est quand tu crées le groupe de joueurs, tu vas faire attention à ce que personne empiète sur le rôle l'un de l'autre, parce que sinon, bah, il va s'emmerder, quoi. Comme c'est un jeu tactique où t'as des spécialisations et tout. Mm-hmm. Pour moi, c'est un exemple, effectivement, très très typique.
Bel exemple, en effet. Jeu de rôle moral social, l'exemple que j'ai en tête, c'est Monster Heart.
Ouais.
Monster Heart, ouais, on joue de l'horreur sociale pour le coup. Hein.
Ouais, absolument, ouais.
Donc on joue des vampires, des loups-garous adolescents. Et il y a quand même pas mal de jeux de manipulation, séduction entre personnages. Mais bon, du coup, ça fait vachement intervenir le social. Et jeu de rôle esthétique social, alors. Et c'est long, j'ai pas bien préparé parce qu'il m'en vient pas un comme ça tout de suite.
Ça dépend. Est-ce que tu considères, puisque c'en est un qu'on me suggérait en message privé, Smallville par exemple, un jeu dans lequel les relations interpersonnelles, un petit peu comme dans Monster Heart, sont hyper importantes et où en même temps tu vas reproduire un canon. Un canon esthétique, tu reproduis quand même une série, tu reproduis tout un univers, etc. Donc, est-ce que ça compte pas, ça, tout à fait.
Je pensais aussi à Prosopopée, là où il y a une grosse importance qui est donnée à l'approbation, puisque en fait, pour réussir tes jets de dés, il faut que les autres t'écoutent quand tu parles, et s'ils trouvent que tu fais des narrations cool, ils vont te donner des jetons. Et du coup, l'écoute est quand même très mise en avant. Donc après, c'est du social zen, hein, Prosopopée. Hein.
Ouais.
C'est pas Pierre et Bretzel. Hein. Enfin, après, ceux qui jouent Prosopopée, Pierre et Bretzel, je leur tire mon chapeau parce qu'ils détournent vraiment le jeu à fond. Quoi.
Bon, je suis sûr qu'on peut y arriver avec Globo.
Il y a aussi, en petit jeu indie qui n'est pas trop connu, il y a Si Dracula, où le social se fait en dansant.
Ouais, tout à fait, ouais. Très, très bel exemple. Et puis du coup, pour le coup, c'est vraiment un jeu déconne, quoi, si Dracula, donc il y a ce côté social qui est important aussi, parce qu'on est là pour se marrer, pour faire marrer les copains, en dansant le twerk, pour illustrer sa plaidoirie d'avocat.
J'ai l'impression que un point commun de la plupart de ces jeux sociaux, Monster Heart étant peut-être l'exception dans ce qu'on a cité, à tes souhaits, c'est des jeux joyeux. Dans beaucoup de cas, le jeu de rôle social qu'on a mis en évidence me paraît un jeu qui est, qui est réjouissant, qui est joyeux, qui est très positif.
Bah, positif, je sais pas, mais par exemple, tu vois, s'il y a du PVP, faut vraiment que ce soit caractère contre caractère, quoi. Personnage contre personnage, plutôt que joueur contre joueur, à mon avis.
Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que au contraire, le fait de s'affronter,
joueuse, quoi. Ouais, s'affronter, mais pour déconner, quoi.
Mais voilà, pour déconner, pour dire allez, on prend pas ça au sérieux, mais on s'affronte parce qu'on a envie.
Un peu comme se taper dessus avec des épées en mousse, quoi, pour déconner, ouais.
Ouais, ou comme on fait une partie de cartes où tout le monde fait semblant de prendre le truc vachement au sérieux, alors qu'en fait, on est là pour passer du temps ensemble, quoi.
Je veux pas dire, mais en conflit social qui n'est pas joyeux, il y a Burning Wheel.
Ouais, mais si tu veux, par exemple, Burning Wheel, je trouve que le social, c'est pour les personnages. Je suis pas certain que ce soit un jeu de rôle social pour les personnes, quoi. Enfin, du moins par rapport aux typologies par rapport à ce qu'on a appelé jeu de rôle social dans tout ce podcast, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, tactico-social, morale sociale, esthétique sociale, je pense qu'on a trouvé. Hein.
Voilà, c'est fait. Donc, ouais, super.
Je pense qu'on arrive au bout, on est dans le temps. Ouais, pardon, vas-y, Sandra.
Tactique, social, esthétique. Oh, bah, j'hésite entre Cats la Mascarade et L5R.
Bah, écoute, je pense que ça nous fait un bon mot de la fin. Et bah, merci à vous d'avoir été là pour ce
podcast. Merci pour ton accueil,
podcast.
Julien. Hein. Ça me faisait très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet.
Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé débattre avec vous.
Et je pense que tout le monde aura apprécié de t'entendre nettement plus que d'habitude. Et il faut absolument qu'on refasse ça. Bien. Je vais quand même pas te laisser parler. Eh bien, merci à tous et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.